Peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Et voilà, nous sommes en direct pour le numéro 14 des Chroniques d'Altaride.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Bonjour Willem. Et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui peut être polémique. On verra si on
peut-être
arrive
plus à... que prévu en fait.
Peut-être plus que prévu. On va vous parler de l'OSR, donc le mouvement Old School Renaissance ou Old School Revival, qui est lié au rétroclone de Donjons et Dragons en particulier, mais pas seulement.
Principalement quand même.
Principalement.
Ah ben ça fait partie de la conversation du coup ça.
Oui, bien oui, sûr. Bah oui.
Avant d'en parler, je vous propose que on fasse un très rapide tour des différentes news éventuelles. La principale news, je pense qu'on va partager avec Xavier et Sandra, c'est notre présence aux Utopiales la semaine prochaine.
Tout à fait.
N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à Nantes, pour le festival de SF des Utopiales,
Est-ce que le podcast sera sorti d'ici là, Julien ?
Le podcast devrait être sorti d'ici là, absolument.
Formidable.
Donc il sera de toute façon sorti sur YouTube, comme en ce moment il est disponible.
En live.
Et il reste sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, à ce propos, j'ai ajouté, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, une page directe sur laquelle vous pouvez aller directement suivre le podcast. Normalement, si vous cliquez sur le film qui s'affiche, enfin le film, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de vidéo chez nous pour le moment en tout cas, vous pouvez participer au Q&A, c'est-à-dire au système de questions-réponses qui sont disponibles sur Google+, donc il faut se connecter sur Google+, pour suivre ça, et vous pouvez nous transmettre vos questions directement. On essaye de les surveiller sur l'écran d'ordinateur et d'y répondre ou de les mentionner quand le moment est propice. Donc les Utopiales, la semaine prochaine, venez nous voir si vous êtes là, on sera ravis de discuter avec vous. En dehors de ça, je pense qu'on peut parler aussi d'un jeu qu'on a acheté tous les deux, Xavier.
C'est clair. Blood and Honor, comme on dit
en français.
Français,
sang et honneur. Alors, le nom a des consonances historiques extrêmement néfastes, mais bon, peu importe.
Oui, je pense qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions de la part de John Wick.
Je ne pense pas que John Wick fasse l'apologie des poignards SS.
Je ne pense pas non plus.
Il y avait un nouveau jeu de John Wick que j'ai raté là.
Alors non, en fait,
il n'est pas vraiment nouveau.
Il a été traduit. Vas-y Xavier, excuse-moi.
Il a été traduit. Il est sorti à la fin de l'été, là, début septembre. Et donc c'est un jeu où il réutilise son système de Houses of the Blooded qu'il décline,
les lignées de sang en français,
qui sera peut-être traduit bientôt aussi, et qu'il décline sur la version samouraï. Et donc pour moi, c'est un peu la deuxième édition de L5R, sans le fluff, quoi. Bon bref, je me comprends. On en causera peut-être pendant ce podcast.
Oui, je pense.
On en reparlera peut-être parce qu'effectivement, ça va être un sujet sur lequel... Disons que notre sujet principal...
Ça peut peut-être même être un sujet à part entière, d'ailleurs, je crois, en fait. Hein,
mais... Ouais. Écoutez, on verra bien.
Mais toujours est-il que, voilà, Blood and Honor, je l'ai lu cette semaine, ça m'a transporté, j'ai adoré.
Ouais.
Et ça me fascine... Enfin, voilà, le milieu samouraï, machin, me fascine toujours autant. L5R me bloquait un petit peu par la foultitude de détails et de trucs à savoir. Et là je trouve que, voilà, il fait bien table rase de pas mal de choses pour proposer un système qui me semble assez séduisant, quoi.
Je suis assez d'accord. Moi, c'est un système que j'aime beaucoup depuis des années, depuis qu'il est sorti en anglais, que je le suis. C'est un système qui est assez exigeant, cela dit. Hein. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde et dans toutes les conditions. Il faut des joueurs qui soient très proactifs et surtout qui acceptent de se mettre dans une posture de créateur. Et ça, c'est pas évident. Peut-être que Blood and Honor, enfin Sang et Honneur, est un peu plus accessible que les lignées de sang de ce point de vue-là, d'ailleurs.
Ouais. Alors pour nos auditeurs, on va quand même rappeler que ce qui fait la difficulté de ce jeu, c'est qu'en fait, lorsqu'on lance les dés pour faire une résolution de situation, les résultats du dé ne définissent pas si l'on réussit ou si l'on rate l'action entreprise. Ils servent simplement à définir qui va pouvoir en arrêter le outcome, comment on dit en français, l'issue. Merci.
Tout à fait. Qui va en arrêter l'issue? Et d'ailleurs, un des principes du système et un des moteurs du système, c'est la possibilité d'ajouter des détails en utilisant les fameux oui mais, oui et, etc. C'est un jeu dans lequel on peut ajouter des détails, on n'a pas le droit de dire non, on n'a pas le droit de revenir sur ce qui a déjà été dit, mais en revanche, on peut enrichir ce qui a été dit par un certain nombre de choses. Si ça vous intéresse, bah écoutez, maintenant, il y a au moins un jeu de cette gamme-là qui est disponible en français. C'est Arcane Asylum, je crois, le
oui, l'éditeur.
Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il se trouve dans toutes les boutiques. Je l'ai acheté, je crois, à 35 euros.
Il me semble. 35 euros.
Voilà, c'est ça. Donc, bah écoutez, voilà. Donc, allez voir. C'est très, très passionnant comme jeu.
Ouais, et le bouquin est super beau aussi.
Et le bouquin est...
Alors la qualité du papier, etc. On peut peut-être redire un peu, mais le bouququin, les illustrations, l'ambiance.
C'est vrai, on nous prend pour des vaches à lait. 35 euros pour un produit comme ça, c'est scandaleux. Non, non, l'important c'est le contenu. Hein. Et puis il est assez élégant, donc c'est pas mal.
Ouais, il est beau.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres news, Willem? Non, pas spécialement.
Enfin, si en fait, j'ai pensé à un truc entre temps. Enfin, hier soir, c'est hier soir que ça a fini. Il y avait un Kickstarter, donc un financement participatif pour un nouveau jeu de rôle auquel j'ai participé. Qui a fini pour Corvus Belli Infinity. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là.
Oui, c'est l'adaptation en jeu de rôle du jeu de figurines, c'est ça?
C'est ça, du jeu de figurines, et qui a fini au final, qui a battu tous les scores et les budgets de jeux de lancement de nouveaux jeux. Même si c'était un univers existant, c'était un jeu de rôle, c'est un nouveau jeu de rôle. Donc il est maintenant top Kickstarter au niveau budget pour une création de jeu de rôle. Il y a que le Mascarade Vampire qui l'a battu en termes de... Enfin, ça a été très, très, très populaire, quoi. Donc, ils ont balancé plein de nouveaux goodies et de nouveaux bouquins en PDF. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, quoi.
Et alors, c'est quoi l'histoire de ce jeu?
Mais en fait, je sais pas trop. Mais parce que j'ai vu que c'est un pote en commun qu'on a, qui est Steve, qui a participé, qui avait l'air d'être branché. Je crois qu'il a joué au jeu
de figurines. On l'invite, Steve, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui.
Oui, il faudrait qu'on l'emmène un jour sur le. Enfin bon. Et bah, en tout cas, c'est un jeu de science-fiction qui a l'air d'un peu space opéra avec un univers qui a l'air d'être très très intéressant. Et la boîte d'édition, c'est la même qui ont édité les gens qui ont fait, enfin les écrivains de Mindjammer qui ont l'air d'être. Enfin, tu m'en as parlé, qui a l'air d'être un très très beau bouquin aussi que j'ai toujours pas lu mais que je veux lire.
Mindjammer, ouais.
C'est une boîte anglaise qui s'appelle Modifius, et grâce à ce Kickstarter, vont maintenant pouvoir louer des bureaux. Ils ont réédité Conan, ils ont aussi édité Artung Tulu, en tout cas des suppléments pour, je sais pas si c'était l'original ou une réédition, je n'ai pas trop compris. Je crois qu'ils sont en train de regarder à refaire c'est eux qui refont Delta Green, je sais plus. En fait.
Non, je crois pas. Je crois que Delta Green, c'est une autre boîte, mais faudrait vérifier.
Ils ont fait un autre truc qui était une autre version de Cthulhu. Toulouse, je sais plus quelle époque, un autre truc.
J'ai failli te suivre moi là-dessus, Willem, et puis parce que le jeu de figurines de base, j'en avais jamais entendu parler, je me suis dit
de succès pourtant. Infinity.
Mais je connais rien.
Le truc de base, l'univers de base a l'air d'être centré sur une planète en particulier où il y a énormément de conflits entre des humains et des extraterrestres et je sais pas trop quoi d'autre.
Différentes factions.
Et après, le jeu de rôle développe là-dessus. J'ai pas tout lu, j'ai hésité pendant plusieurs jours. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça valait vraiment le coup. Et j'ai juste vu la somme en train d'augmenter, augmenter, augmenter. Je me suis dit, s'il y a plein de gens, des rôlistes qui veulent l'acheter, ça doit être bien.
Donc tu es influençable et tu as.
Très, très influençable pour ce genre de choses. Et ils ont l'air de sortir un très beau bouquin. Et donc, bon, on verra ce que ça donne. Bon,
on va demander à la plus influençable d'entre nous. Sandra, tu as baqué ou pas?
Joker.
Tu as baqué donc.
Tu as baqué.
Bah, écoute, formidable.
Voilà, on saura. Et tu as baqué une version papier, on pourra le voir et le toucher, ou t'as baqué?
Ouais, moi j'ai baqué version papier et qui donne tous les PDF qui ont été ouverts pendant le Kickstarter, quoi.
Bah écoute, je voulais en parler dans mes coups de cœur, mais puisqu'on est sur le Kickstarter, gardez vos sous, chers auditeurs, pour un jeu qui va être en Kickstarter la semaine prochaine.
Ah, c'est quoi?
Divergence.
Headspace, c'est un jeu c'est un jeu cyberpunk, vaguement propulsé par l'apocalypse. C'est-à-dire que c'est des règles qui sont très semblables à celles des jeux propulsés par l'apocalypse, mais pas mal modifiées. Et c'est un jeu. Alors, est-ce que vous avez vu la grande série Netflix qui s'appelle Sense8?
Oui.
J'ai vu ça.
On en a déjà parlé dans le podcast.
On a déjà parlé dans le podcast, Sense8.
Oui, c'est vrai, on en a parlé.
Headspace, ce sont des agents, des espèces de super agents, qui peuvent appartenir à différentes organisations, dans un monde cyber avec des grandes corporations, l'effondrement des nations, etc., etc. Et ces agents sont connectés en permanence à un Headspace, justement, dans lequel ils partagent leurs compétences, leurs pensées, leurs émotions, etc. Ce qui veut dire que quand tu veux faire une action, soit tu es le spécialiste de l'action en question, et donc, bon, bah, tu déchires tout, t'es super balèze, etc. Soit tu n'es pas spécialiste et tu utilises les compétences de quelqu'un d'autre. Si tu utilises les compétences de quelqu'un d'autre, le jet de dés que tu vas faire ne va pas dépendre de tes caracs, mais de ta capacité à gérer certaines émotions. Puisque lorsque tu utilises les talents de quelqu'un d'autre, bah, ces émotions débordent sur toi, selon l'émotion qu'il a liée à sa compétence pendant la création de perso. Moi, j'avais vu le starter kit qui est sorti il y a quelques temps. Je mettrai un lien pour aller le voir si vous voulez. J'ai aussi écouté ce week-end deux podcasts. Un podcast s'appelle She's a Super Geek. Je mettrai l'adresse aussi. C'est un podcast qui donne la part belle aux MJ féminins de partir en ligne. Il y a pas mal de jeux assez intéressants. Et notamment, les deux derniers épisodes que j'ai entendus étaient sur Headspace. Et alors, c'est très rigolo. Je suis pas sûr que j'aborderai le jeu de la même manière que ce qu'ils ont fait dans le podcast, mais c'est un jeu qui me motive bien, quoi. Voilà.
Cool.
Ok ?
Ok.
Ouais.
Autre chose ? Non, Sandra, rien à dire ?
Ma petite vie est tout à fait inintéressante en ce moment. Du JDR, du JDR, du JDR.
Et un mariage de steampunk.
Et un mariage, oui, alors, parce que je ne comprends pas
leur coup de cœur.
Un mariage steampunk avec 90% de rôlistes dans la salle. Enfin, les 10% restants étant la famille. Ouais. Et parler à des inconnus et avoir tout de suite des points communs avec eux, c'est très très rare et j'ai adoré ce mariage.
Donc vous avez compris, hein, c'était la mention personnelle qu'on fait à Cédric et Émilie pour les féliciter directement dans le podcast.
Mais tout à fait, on les félicite.
Et c'était un super mariage. Bien, notre sujet du jour, l'OSR. Qu'est-ce que c'est donc ça que l'OSR ? Qui veut nous donner une définition ?
Sandra, bien sûr.
J'allais dire Xavier, mais bon, une définition de l'OSR.
Ah oui, hein, je vous
pire. On fait moins la maline. Hein.
Pour nos auditeurs,
ah, mais là, on voit qu'on est tombé sur un sujet compliqué, là, tout de suite. Ouais. Hein, on n'a rien à dire.
Pour nos auditeurs, je dois quand même préciser que Xavier et Sandra ont chacun une pile de documents rédigés par leurs soins à ce propos-là. Alors, Sandra, c'est un de ses éternels petits carnets. Xavier, ce sont des feuilles volantes, comme d'habitude.
C'est vrai. On pourrait citer, d'ailleurs, on n'en a jamais parlé pendant le podcast, les célèbres petits carnets de Sandra. Oui. Puisqu'on joue depuis un certain temps avec Sandra, il faut savoir qu'elle note pour chaque campagne et à chaque partie, elle a son petit carnet et elle note toute la partie jouée dans un petit carnet. Donc, elle a une tonne de petits carnets qui recensent toute la vie rôlistique de Sandra et de ses joyeux compères.
C'est une forme d'archive extrêmement puissante.
Tout à fait.
Et très utile pour se souvenir de ce qui s'est passé dans la partie précédente.
Mais cela nous éloigne fortement de l'OSR.
Absolument. Alors, on t'a gagné un peu de temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet, Sandra ?
L'OSR, c'est le Old School Revival.
Renaissance Revival, oui, tout à fait.
C'est un courant de jeu essentiellement axé sur la nostalgie de ce que fut le jeu de rôle à ses débuts. Les envies et les besoins des joueurs au début, la simplicité du jeu très souvent, le fait qu'il y avait peu de règles, que c'était du jeu d'aventure. Retrouver ce courant lorsque des jeux plus complexes sont sortis, certains joueurs ont envie de revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, c'est ce qui a donné l'OSR.
Voilà. J'en profite pour saluer Erwan, qui nous écoute et qui vient de nous signaler effectivement que OSR, c'était Old School Renaissance. Il y a plusieurs termes.
On a vu les deux, je crois.
Il y a même Old School Roleplaying que j'ai entendu.
Au départ, les mecs qui font de l'OSR, ils se définissent pas comme ça, ils parlent de rétroclone au départ.
Ah, alors qu'est-ce que c'est un rétroclone, Xavier ?
Eh bien, un rétroclone,
est-ce que c'est un clone de Star Wars qui s'habille comme dans les années 70 ?
C'est ça. Un rétroclone, c'est un type qui prend des règles, a priori des règles de Donjons et Dragons, qui sont difficilement trouvables, peu éditées, etc., qui les recompile, qui les redigère et qui les ressort pour faire le même jeu, mieux présenté, accessible à tout le monde.
Parfois un peu épuré.
Parfois un peu dépoussiéré, pour pouvoir jouer avec le jeu d'origine, quoi. Enfin, ou un truc très très proche du jeu d'origine.
Alors, on va faire une petite séquence mention des différents jeux. Comment ?
Pardon, vas-y, je t'ai pas très bien entendu, Julien.
Ah, pardon, excuse-moi. Non, je disais, j'ai peut-être un problème de micro. Attendez, on va essayer d'augmenter un peu ça.
Alors là, c'est bien là.
C'est bien là. Donc, ouais. Je disais, on va faire une petite séquence où on va évoquer différents jeux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jeux qui sont typiques des rétroclones ou de l'OSR?
Eh bien, celui qui vraiment la pierre d'angle, qui lance la mode et qui la popularise, pour moi, c'est Osric. Osric, oui. C'est Matt Finch qui réécrit Advanced Dungeons and Dragons première édition et qui le publie, quoi.
D'accord. Et c'est du Donjons et Dragons pur et simple, c'est quoi?
Du Donjons et Dragons première édition ADD. Presque mot pour mot pour rejouer en première édition, quoi.
Parce que les règles étaient devenues introuvables, en fait, finalement.
Les règles étaient devenues introuvables et oui principalement, ouais, je pense. Ouais.
Alors est-ce que c'était selon...
Et parce que les règles de la première édition, elles sont particulièrement difficiles à comprendre aussi, quoi.
Absolument.
Je veux dire, quand on lit ADD1, que ce soit le livre du joueur ou le livre du maître écrit par Gary Gygax, il faut non seulement un certain niveau d'anglais, mais en plus, il faut comprendre ce qu'il veut dire, le monsieur, hein, parce que c'est pas clair. Hein.
Il y a pire.
C'est
il
fort.
Y a le manuel des joueurs de ADD 2e édition, traduit par les Québécois.
Oui, Transcom.
Alors ça, c'est le premier que j'ai eu entre les mains, et je peux te dire que c'est terrible, mais peu importe.
Et donc voilà, Matt Finch, il nous fait une synthèse, une compilation, en changeant quasiment rien, et c'est vraiment ça qui révèle sur le web l'existence du courant OSR, quoi, en fait.
Ok. Sandra, est-ce que tu veux nous en citer un? Juste un pour le moment.
Juste un. Damn it. Sword and Wizardry.
Ah non, t'as pas le droit, j'allais le dire. Ah non, c'est pas celui-là que j'allais dire, je crois, je sais plus. Si, c'est celui-là que j'allais dire.
Trop tard.
C'est scandaleux. Je vais être obligé de citer...
Et alors, pourquoi tu le cites, Sword and Wizardry, Sandra?
Parce que tout simplement, que c'est par ce jeu que j'ai découvert ce qu'était le courant OSR. Quand j'y ai joué pour faire une initiation en one-shot, j'étais très surprise quand on m'a dit « Non, mais tu sais, hein, le jeu, il a 4 ans. Ah bon ? Pourtant...
J'en ai entendu beaucoup de bien de ce jeu-là. Je sais pas, hein. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais pas s'il est vraiment bien ou pas.
Est simple à prendre en main, je trouve.
Moi, les jeux issus de l'OSR qui m'intéressent le plus, mais on en reviendra peut-être, c'est pas forcément les jeux qui collent fortement aux règles antiques.
On y reviendra. On va faire ça dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'on avait cité ? On avait cité Castles and Crusades.
Ouais, Castle and Crusade.
Qui avait l'air d'être le premier qui est sorti selon un article que j'ai lu, en fait.
Oui.
Mais bon.
Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi.
Alors ça se discute, certes.
D'ailleurs, le premier, alors en parlant de ça, alors juste, enfin, tu reviendras sur ça se discute, Xavier, mais moi, je réfère à un article qu'on s'était partagé avant, parce que je me positionne, d'ailleurs, je l'avais déjà dit, hein, mais je me positionne comme un peu, moi, je n'y connais absolument rien en donge et en old school, quoi que ce soit, quoi.
C'est parfait.
Donc, j'ai plutôt envie de poser des questions qui vont titiller. On va voir.
Super. On attend.
Mais bon, j'ai lu quand même deux, trois articles. Donc, ce que j'ai compris, selon un article, c'était que à partir de la 3e édition de Donjons et Dragons et après l'achat de toute l'œuvre par Wizards of the Coast et la refonte de la 3e ed et le Open Gaming License qui a donné l'ouverture au jeu qu'on vient de citer, en fait. Alors, donc, autour de l'an 2000, à peu près, on parle.
Alors, on peut en parler, parce que moi, je pense que l'émergence du mouvement OSR, elle tient à plein de facteurs. Mais effectivement, le fait du passage à la 3e édition, il y a plein de gens qui adhèrent au jeu, qui vont se remettre à... qui vont trouver un intérêt pour Donjons et Dragons grâce à la 3e édition et grâce à l'OGL. Et il y a plein de vieux joueurs qui vont pas du tout se reconnaître dans cette nouvelle édition. Et c'est tous ces gens qui aimaient jouer à l'ancienne qui vont petit à petit alimenter le courant OSR, je pense, quoi. En tout cas, c'est vraiment la période de rupture. Hein. Il y a ça, et il y a la possibilité aussi, c'est-à-dire que dans les années 2000, Internet est bien implanté, et les gens ont le moyen de créer facilement des réseaux et une communauté. Et pour moi, c'est au moins ces trois éléments-là qui lancent le mouvement OSR, c'est-à-dire le passage à la 3e édition qui ne satisfait pas tout le monde, la mise en place de l'OGL, la maîtrise d'Internet, et même il y a des gens qui disent que indirectement, The Forge, le forum The Forge, va aussi profiter au mouvement ESR.
Absolument, absolument, oui.
principalement parce que The Forge fait la preuve que l'édition indépendante fonctionne et que on n'est plus dépendant des grandes maisons d'édition et que on peut se lancer et éditer ces trucs.
Il n'y a pas que ça. Oui, effectivement, ils montrent que c'est possible. Okay. Et tu as aussi tout un courant de réaction à la Forge qui va vouloir ressortir des jeux à l'ancienne en disant « Vos conneries, les gars, on n'en a rien à foutre, c'est pas comme ça qu'on joue. » Et de toute façon, le jeu de rôle, il s'est arrêté le jour où Dragonlance est sorti.
Yes.
D'accord. Bah moi, je pense deux trucs à ça. Et ça, c'est mon opinion de base. Le premier truc que je pense, c'est mais attendez, c'est pas pour moi. C'est tout ça, c'est tout ce qui est englobé là-dedans, c'est que old school, quoi. Alors revival, renaissance ou pas. Pour moi, c'est que des mecs qui se disputent sur comment on joue à Donj, quoi. Donc pour moi, c'est tout old school. Et d'autre part, pourquoi, enfin, je veux dire, autant qu'ils aient retourné à faire du wargame, quoi, s'ils veulent. Hein.
Tiens, écoute, on a un témoignage. Lionel nous dit bonsoir. Moi, je me suis mis à l'OSR pour refaire les anciens modules et campagnes de TSR. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait évoqué. Donc c'est un très très bon exemple d'intrusion entre guillemets ou d'arrivée de l'OSR sur la scène.
Ça, alors moi, c'est pareil. Hein, pourquoi l'OSR ? J'en ai tout un pavé et c'est un des trucs. Hein, Donjons et Dragons. Alors, il faut déjà dire que l'OSR, ça touche quasiment presque que Donjons et Dragons, quoi.
Est-ce que
les autres grands jeux iconiques, il n'y a pas d'OSR à cette échelle-là, en tout cas.
Sandra, tu réagis. Alors, profitons-en.
Pour ma part, l'OSR ne peut toucher que Donjons et Dragons, puisque une des choses qui, pour moi, a permis l'OSR, qui n'en est pas forcément la base, mais qui a permis son essor, c'est la licence OGL. Et à ce jour, seules les publications Donjons et Dragons ont eu une licence OGL.
Ah non, l'époque peut-être.
Oui, voilà. Pardon, à l'époque. Excusez-moi.
Parce que je te rappelle que Gumshoe est en OGL aussi.
Le Basic Chaosium est en OGL.
Mais oui, sauf que
Traveler est quasiment en OGL puisque à l'époque,
la grosse licence,
c'est quoi l'OGL
qui te fait
c'est l'Open Game License.
Ça veut dire quoi?
C'est les licences libres pour le jeu, quoi.
C'est l'équivalent du Creative Commons avec paternité pour le jeu.
D'accord.
Oui, mais alors attention, parce que c'est pas juste l'équivalent à Open Gaming License, je crois que ça appartient quand même à Wizards of the Coast, si je me trompe pas, non? Ou c'est complètement ouvert?
Non, c'est pour ça que c'est avec paternité, je.
Ouais.
Écoute, on va vérifier, mais je crois. Moi, j'avais vu aussi que c'était
pour moi, c'est
que l'OGL c'était spécifique au D20 en fait. Mais
disons que c'est...
après, il y a des étendues, il y a des systèmes qui se sont ouverts aussi. Mais est-ce que alors, ça s'appelle aussi OGL? Je n'en sais strictement rien.
Au début, ils ont fait l'OGL, Wizard, et en 2008, est une licence irrévocable. Il me semble que c'est en 2008, ils sont revenus en arrière, ils ont fait une licence qui permettait à des third parties d'écrire des choses, mais qui était beaucoup plus
des
parties tierces, mais qui était beaucoup plus restrictive. Seulement ce qu'ils avaient déjà publié sous OGL est resté sous OGL, car c'est la licence irrévocable et primaire.
Mais aujourd'hui il y a plein de systèmes qui sont en libre, hein, et les grands je veux dire, il faut voir que les grands systèmes de la fin des années 70, des années 80, hein, donc on peut citer Traveler pour le Space Opera,
qui est un
jeu assez méconnu en France,
et pourtant,
mais qui a un gros impact sur le milieu américain.
Le jeu où tu peux créer un perso, il meurt avant la fin de la création de perso, hein.
Quand même, ce serait dommage de s'en passer en France.
Si c'est pas pareil. OSR, ça.
Parce que c'est des Chaosium, que ce soit RuneQuest ou l'appel de Cthulhu, il n'y a pas eu d'effet OSR sur RuneQuest ou l'appel de Cthulhu. Donc tous ces très vieux systèmes, il y a une évolution de Rollmaster. Est-ce que c'est vraiment de l'OSR? Bon, on pourrait peut-être en discuter, mais le seul qui a été impacté fortement, c'est Donjons et Dragons. Pourquoi? Parce que à partir de la troisième édition, on joue à un autre jeu. Quand on joue à Donjons et Dragons en troisième édition, on a une autre expérience ludique que quand on joue à Donjons et Dragons en version boîte rouge, première édition, deuxième édition.
Absolument.
Et alors du coup, je pars peut-être loin, on y reviendra, mais où est-ce qu'est la différence entre un OSR et un remake? Est-ce que Requiem est un remake de Mascarade ou est-ce que c'est un OSR? Je pense pas que ce soit un
OSR. Non, c'est pas un OSR pour moi. Mais ce serait bien d'ailleurs de poser les principes que vous avez pu distinguer sur l'OSR. C'est quoi jouer en OSR? Parce que finalement, il y a aussi une approche. Il n'y a pas que les règles qui sont importantes en OSR. Il y a aussi une certaine approche du jeu.
Ouais. Moi, j'ai relevé plein de facteurs. Hein.
Je t'en prie.
Sandra hurle si tu n'es pas d'accord. Alors, c'est un peu en vrac. Hein. Je les ai pas forcément triés. une des caractéristiques de l'OSR, ou ce que les gens disent apprécier de l'OSR, c'est le maître de jeu a toujours raison. Il y a des gens qui regrettent ça, qui ont la nostalgie le maître de jeu c'est Dieu, et c'est ce que tu disais, quoi, peut-être une espèce de réaction à la forge.
Oui, tu as voilà. Aussi le maître du jeu est un adversaire.
Eh bien, pas dans Donjons et Dragons. Hein.
J'exagère un peu, non. Le maître du jeu gère une adversité qui est censée être forte. Et il y a un côté... Bah moi, ça va peut-être ma contribution sur le sujet de l'OSR. Pour moi, l'OSR, il y a un énorme élément qui est le défi. Il n'y a pas que la nostalgie. C'est une façon de jouer qui est assez différente de la façon de jouer qu'on peut avoir autour des tables aujourd'hui pour beaucoup de jeux, en fait. Il y a effectivement tout le côté nostalgie, réutilisation des anciens scénars, retour aux sources, souvenirs, etc., qui est un élément qui est assez exceptionnel. Mais c'est un élément qui a joué aussi, bah, tu sais, Willem citait Vampire tout à l'heure, et notamment le succès du crowdfunding de l'édition 20e anniversaire de Vampire. L'édition 20e anniversaire de Vampire, il faut le dire, elle a joué sur la nostalgie des joueurs de Vampire, hein, quasiment exclusivement. Ça a tellement bien marché qu'ils vont ressortir une édition, mais la nostalgie, elle est là aussi pour ces jeux-là, maintenant, puisque Vampire, c'est il y a plus de 20 ans maintenant que c'est sorti. Donc, pas seulement nostalgie pour moi, il y a vraiment la façon de jouer.
Oui, oui. Hein, donc voilà, le DM Fiat, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le jeu de position, l'envie de PMT, l'envie d'un jeu impitoyable, on dirait gritty en anglais, c'est-à-dire que quand on fait des erreurs, on meurt. On peut avoir des persos fragiles, on peut voilà, c'est dur. Ce que tu dis, le côté défi. La recherche de règles qui ne protègent pas le jeu, qui ne protègent pas le maître de jeu, qui ne protègent pas les joueurs. Encore une fois, c'est sans doute une réaction à The Forge, hein.
Probablement pas seulement, tu sais.
Ouais, mais en partie, ouais. Ça implique que il faut jouer en bonne intelligence, que on prend pas les gens pour des cons et que on pense qu'ils sont capables. D'adapter les règles à leurs besoins et d'une certaine manière de s'en affranchir. C'est la recherche d'univers ou d'aventure avec des blancs, donc que l'on va pouvoir remplir soi-même. De l'action, pas du blabla, de la nostalgie, un corpus de textes à réexplorer. Hein, donc ouais. J'avais noté des stats sur le GROG. Si on regarde le classement des éditeurs sur le GROG, TSR, donc l'éditeur historique de Donjons et Dragons, il a 900 entrées. Wizard of the Coast, le deuxième, est à 780. Et le troisième, White Wolf, le deuxième, est à 790. Et le troisième, c'est Wizards of the Coast avec 450.
À propos du GROG, je t'interromps 30 secondes avant que tu finisses tes stats. On a Magister Fantôme qui nous dit qu'il y a un article du GROG sur les rétro-clones et quasi-clones. On vous mettra le lien.
Voilà.
C'était juste à propos du GROG. Vas-y, continue.
Et donc, on s'aperçoit de quoi ? C'est que en 25 ans, TSR, 15 ans après sa mort, même un petit peu plus, il continue à être un des éditeurs les plus prolixes du jeu de rôle. Et donc, forcément, il y a un corpus de textes. Alors, je vous l'accorde, hein, c'est assez inégal. C'est pas forcément facile d'accès, c'est majoritairement en anglais, c'est pas toujours très bien écrit, hein, on connaît la plume de Gary Gygax, mais il y a quand même des perles, il y a plein de trucs à redécouvrir quand on se plonge dedans, on voit qu'ils avaient quand même été aussi très loin dans leur réflexion sur le jeu de rôle. Donc, il y a tout un corpus de textes à redécouvrir, quoi.
Yonen nous disait aussi que, en tant que MJ, qui fait de l'OSR ou en tant que joueur, d'ailleurs je ne sais pas quelle position il adoptait, mais il se disait un peu perdu par les préconisations de la Forge et tout le côté MJ tournant, le rôle du MJ qui est réévalué.
Moi honnêtement, vas-y. William.
Non, c'est de l'écho qu'on a.
D'accord.
Je crois que c'est parce que j'ai rallumé mon micro, ça a dû faire un bruit.
Ok. Mais... Moi honnêtement, j'aime beaucoup ce que m'a apporté la Forge. En apport dans ma manière de jouer traditionnelle, quoi. Je pense que je pourrais plus revenir complètement en arrière, hein. C'est pas possible. Mais pour autant, j'aime beaucoup tous ces vieux systèmes, ces vieux scénars, les réflexions qu'il y a dans ces vieux bouquins, quoi. Donc voilà un petit peu moi le tour de le pourquoi l'OSR aujourd'hui.
Sandra, est-ce que tu as des choses à ajouter ? N'hésite pas.
Une envie de règles simples aussi, je l'ai pas dit. Ils veulent dans la recherche de l'OSR, c'est que évidemment la troisième édition de Donjons et Dragons.
Ok, laisse je m'arrête. Sandra, d'accord. Parce que là, elle est en train de faire la grimace. Je pense que c'est une des choses qu'elle voulait dire.
Oui, oui, mais comme allez, d'habitude, Xavier nous avait dit pour ce sujet de podcast, je n'ai pas grand-chose à dire. Et en fait, comme d'habitude, une fois que Xavier est lancé,
mais
Xavier est extraordinaire.
Donc non, c'est aussi ce que Sandra j'ai aussi, vu évidemment beaucoup aussi sur l'OSR, c'est une envie de se concentrer plus sur le jeu que sur les compétences. C'est le joueur qui fait plus de descriptions dans les systèmes OSR très souvent que le jeu. Souvent, il y a donc Matthew Finch dans, je vous prie de m'excuser mon accent horrible, A Primer for Old School Gaming, qui est donc un fichier PDF disponible gratuitement sur Lulu, où il définit les règles zen. Rolling, not rules. Player skill, not character abilities. Heroics, not superheroes. Et forget game ballots. Donc,
alors,
tu nous les traduis,
on va peut-être prendre chacun un par un.
Donc, oui. Donc, si nous prenons les points, bah, le rolling, not rules, c'est vraiment le MJ décide et ce n'est pas des règles que chaque joueur peut lui opposer ou autre. C'est cette notion aussi de le maître du jeu et maîtrise le système de résolution plus ou moins ainsi que ses conséquences dans le jeu.
Moi je nuancerais ça un peu.
Willem, comment tu nous traduirais, parce que toi t'es le plus anglophone d'entre nous, rulings not rules.
Rulings not rules, je suis plutôt d'accord.
Ah, on t'entend très mal, vas-y répète.
Ouais, pardon, si je suis en train de vous donner, je sais pas ce que je fais, pardon.
Oui, vas-y Willem, on t'écoute.
Ok.
Les aléas du direct.
Tu disais?
J'avais appuyé sur un bouton, maintenant c'est en train de résonner chez moi, donc c'est bizarre, mais ce que j'étais en train de dire, c'est que ruling, c'est effectivement, je suis d'accord, c'est ce que le MJ a à dire. Donc c'est plus ce que le MJ déclare qui s'est passé, qui est important plutôt que le jet qui est fait.
Oui.
Ok. Et donc,
Moi, je voulais un peu nuancer ça.
C'est comme ça que je le comprends, en tout cas.
Pareillement, et c'est ainsi que Matthew Finch le décrit dans son livret, qui n'est pas très très long. Il doit faire 7-8 pages. Mais il est vraiment très intéressant, rempli d'exemples, de la différenciation et de conseils pour les joueurs et les MJ qui veulent se lancer dans l'OSR.
Ouais, l'idée, c'est, moi, tel que je l'ai compris en écoutant des podcasts sur le sujet, c'est de dire que il y a tellement de situations différentes qu'on peut rencontrer en jeu que ce qui est important, c'est la façon dont elles vont être interprétées à la table et dont on va en tirer une forme de jurisprudence plutôt que poser d'innombrables règles pour régler chacune des situations. Et c'est d'ailleurs, pour finir Sandra avant de te laisser parler, un des points qui a été énormément reproché à Donjon 3ème édition et 3.5, c'est une surabondance de règles pour régler le moindre point de détail.
Mais ça justement, moi je c'est pas juste un truc normal de JDR et pas, enfin je vois pas pourquoi après c'est old school quoi.
Eh ben on va y revenir, Sandra.
Ouais, ok.
Sur la jurisprudence à la table, non, la notion est vraiment que le maître du jeu a une voix qui compte si ce n'est double, sinon quadruple. C'est
t'exagères
sans être Dieu, c'est quand même c'est sa vision qui prime, enfin pas qui prime.
Ah, c'est un mais jeu avec un MJ cas, fort, quoi.
Voilà, c'est ouais. Cela.
Moi, pour avoir joué pendant au moins 10 ou 12 ans à ces éditions-là, il est clair qu'il y a les règles, et on se chicane sur les règles parce qu'elles sont mal écrites, que chacun les interprète. Il y a la jurisprudence, c'est-à-dire ce que collectivement on a décidé d'accepter à la table comme vrai et comme règle. Et après, il y a les ajustements du maître de jeu en cours de partie pour éviter de casser le flow. Mais le DM Dieu... il passe nécessairement par une négociation avec ses joueurs à un moment ou un autre.
Ah,
et donc ça se transforme en fait dans la réalité par la jurisprudence.
J'ajouterai une chose, on parlait de l'éventuelle réaction à The Forge. Pour moi, ce point-là, c'est un des points essentiels de réaction. Parce que le ruling not rules, pour moi, il s'oppose fortement au système d'Osmater. Hein.
Et oui.
Oui.
Donc, quittons un peu l'opposition et la théorie. Passons peut-être au point suivant.
Mais parce que si tu veux, le fait de prescrire fortement les règles,
ouais.
ça permet d'assurer que les gens vont avoir au moins ça, mais aussi ça cantonne les gens à ça. C'est-à-dire que quand tu as une liste de compétences, la liste de compétences, quelque part, elle te dit ce que tu peux faire dans le jeu.
C'est justement le deuxième point qui est là, en fait, où c'est les compétences du joueur et non pas les habilités du personnage qui sont prises en œuvre. Sur un jeu, souvent, on prend DD3-5. Bon, bah, l'exemple qui est donné par Matthew Finch est un piège à fosse. Une fosse avec des pointes au fond. Que font les personnages sur DD3-5 par exemple, c'est bon, je tente mon jet d'escalade, je fais un jet d'acrobatie, je fais un jet de ceci pour réussir à passer, tandis que dans le old school, le joueur dit je regarde si par hasard je n'ai pas une planche que je puisse utiliser pour m'en servir comme pont. C'est plus de la description, ce n'est pas du narrativisme, mais c'est de la description des actions des joueurs.
Je vois pas le rapport, mais
plutôt
vas-y.
Plutôt que des simples jets de dés à la suite.
On fait appel aux compétences et aux talents du joueur. Et d'ailleurs, on en discutait
à l'improvisation.
Discutait avec Thomas Munier à Eclipse quand il nous présentait Empreinte et Orla et ses objectifs. Et parmi ses objectifs, c'était de mettre en exergue cette compétence du joueur. Et finalement, avec ce que tu disais sur le début, sur le ruling not rules, donc peut-être de la jurisprudence plutôt que des lois, je sais pas si c'est exact, je suis pas juriste, hein, donc vous m'en excuserez.
Ouais, ça paraît plutôt pas mal comme réduction. Ouais.
Voilà.
Je trouve aussi.
Bon, bref, du coup, j'ai perdu le fil, excusez-moi. C'est le talent du joueur est mis en exergue, mais le talent du maître du jeu aussi. On a souvent parlé du bon maître du jeu. Est-ce que en OSR, le bon maître du jeu, ce serait pas vraiment une notion qui existe ?
Bah si, je pense. Hein. En tout cas, c'est ce que tend à répandre les propos de Gary Gygax. Hein. Quand il dit les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière le paravent, quand il dit ce qu'il faut pas dire au maître du jeu, c'est qu'en fait ils ont pas besoin de règles. Je pense qu'il parle de ça, Gary Gygax. Il parle de et en même temps il explique pas, il donne pas dans ses jeux la recette aux gens pour y arriver.
Quoi est-ce que on est en train de parler d'OSR, de old school, revival ou renaissance,
alors,
à l'opposé de jeux de rôle normal, quoi.
Ouais, alors tu as raison, évidemment, recentrons. Pourquoi est-ce qu'on parle, quand on parle des capacités du joueur plutôt que les capacités du personnage, d'old school revival? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est revenu avec ce mouvement-là. La plupart des jeux de rôle qui ont été faits ensuite s'articulent autour d'un système de caractères plus compétences. Alors, il y a des variations, parfois il n'y a que des compétences, parfois il n'y a que des caractères, mais c'est plus rare. Et globalement, l'idée, c'est que quand tu veux faire une action, tu as un système de règles solide qui va te permettre de savoir si tu réussis ou si tu rates. Hein, je pense que dans le jeu de rôle classique qu'on a rencontré ensuite, c'est ça la base. Alors que, quitte même à aller plus loin, quand tu joues du côté un peu interprétation du personnage, plongé dans l'univers du personnage, tu vas faire agir ton personnage grâce à ses compétences et réfléchir grâce à ses compétences, et tu vas essayer éventuellement de ne pas dépasser le cadre qui t'est donné par les compétences du personnage. Si tu joues à un barbare crétin, il va pas résoudre d'énigmes. Parce que d'une part, il n'a pas les compétences pour le faire, et d'autre part, tu vas te dire, oui, je joue un barbare crétin, donc mon barbare crétin, il n'est pas censé avoir d'illumination géniale, etc., même si moi j'ai compris, je ne vais pas le faire. Alors que dans l'OSR, le talent du joueur est vachement important, la réflexion du joueur est vachement importante. Moi, je me souviens de mes anciennes années de Donjons et Dragons, donc ADD, à l'époque, et je me souviens de m'être arraché les cheveux et d'avoir passé des heures et des heures à essayer de résoudre des énigmes pour ouvrir une porte dans un donjon. Et on y a passé la moitié de la nuit. Alors bon, c'est pas forcément une expérience exceptionnelle. C'est pour ça que moi, je suis pas absolument fan de l'OSR. Hein. Mais sans aller jusqu'à ce cas extrême, il y a plein de cas où c'est vachement sympa. Prenons l'exemple du piège. Le MJ te décrit le piège. Bah, il va te le décrire en détail. Et à toi de trouver dans sa description la faiblesse du piège pour pouvoir le franchir. Si t'es un voleur, ok, t'as la compétence des amorçages, machin, c'est ton rôle, tu peux le faire. Mais si t'es pas un voleur ou si t'as pas de voleur sous la main, eh ben là, tu vas réfléchir. Et c'est pareil pour un peu tout. C'est les fameuses parties où le maître du jeu a cherché pendant des heures des énigmes à te poser, et où il y a une histoire, je crois, Sandra pourra nous en parler, de lune verte, je crois que c'était ça. Surtout qu'il nous écoute souvent, donc ça va le faire rire.
Bonjour Roby, parlons de lune verte.
Non mais après, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le système, il te protège pas. Ouais. Les règles, elles te protègent pas. C'est-à-dire que toi, derrière, tu as un effort en tant que joueur, en tant que maître de jeu à faire pour produire une bonne partie. Oui. Par opposition donc aux jeux forgiens ou les jeux forgiens, parce que le système Does Matter, ils essaient de tout cadrer pour que t'assurer que même si tu es mauvais, si tu appliques la recette qu'on te donne dans leur jeu, eh bien, tu aboutis à une partie satisfaisante. Ça n'existe pas dans l'OSR.
Est-ce que l'OSR, c'est jouer sans filet ?
Il y a de ça, ouais.
C'est jouer sans, pardon ?
Sans filet, pardon.
Bah, ça
mais bah alors, attends, il y a un truc par contre par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Julien.
Je t'en prie, vas-y, Vilain.
D'accord, c'est intéressant les systèmes de Karak plus Compé et tout, que c'est venu après, etc. C'est ce genre d'idée, c'est très très intéressant. Mais ça s'est chevauché quand même. Il y a le mouvement OSR a démarré après qu'il y avait déjà Compé plus Karak et des systèmes de règles.
Mais bien sûr, mais justement, c'est l'idée. C'est l'idée. Le mouvement OSR est apparu. Alors, bon, je suis vraiment pas spécialiste, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais pour moi, le mouvement OSR, un de ses fondements, c'est de rejeter cet aspect-là du jeu en disant ce qui m'intéresse, c'est pas que mon personnage il puisse faire un jet de dés et résoudre la situation, c'est de résoudre moi-même la situation. Alors, l'exemple classique, c'est le dungeon crawling, donc l'exploration de donjons, les pièges, les machins et tout. Mais ça marche aussi au niveau roleplay, ça marche aussi au niveau interprétation du personnage et diplomatie, par exemple. Dans Donjon 5, tu veux convaincre, pas Donjon 5, enfin si, même le 5, mais dans Donjon 3, tu veux convaincre quelqu'un, tu fais un jet de diplomatie. Dans Donjon 2 ou dans Donjon 1, t'as pas de jet de diplomatie. Donc, tu discutes. Voilà.
Ok.
Donc, c'est,
c'est aussi intéressant parce que ce qui était dit tout à l'heure, c'est que on a dit au début de la partie que ce qui était écrit dans la boîte de base de D&D et AD&D, c'était vraiment très obscur au niveau de la manière d'expliquer les règles.
Ouais.
Et après, ça a été dit qu'en fait, c'était vachement simple quand ça a été repris.
Alors, c'est des règles simples, mais qui sont tellement simples et mal écrites que tu peux les interpréter de multiples façons, d'où la nécessité d'une jurisprudence.
D'accord, ok.
Et donc ça pose le problème de l'autorité à la table. Et qui pardon, a l'autorité ?
Il n'y a pas un truc direct au niveau du thème aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, tu regardes sur le grog au niveau des suppléments édités, TSR plus Wizards of the Coast, et ils sont parce que Donjons et Dragons, c'est toujours le truc le plus énorme et le plus populaire. Et ils vont continuer à en publier, à en vendre. Bon, c'est pas genre, le jeu de rôle, c'est pas une industrie gigantesque, loin de là, hein, mais c'est ce qui marche. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un lien très important au thème Medfan, quoi ?
Oui, mais on peut l'aborder de manière très différente, le Medfan.
Alors, juste
un peu. Oui, on peut, mais je dis pas qu'on peut pas, mais c'est intéressant. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc intéressant de ce côté-là ?
Moi, j'ai juste deux points.
Il y a eu d'autres systèmes de règles, comme Traveler qu'on a cité tout à l'heure.
Moi, j'ai juste deux points à souligner de ce point de vue-là, Willem. Le premier, c'est que Sandra, n'hésite pas à intervenir, parce que je te vois bouillonner de temps en temps, mais comme nous, on parle...
Avec les trois grandes gueules, là, si tu veux parler...
Donc, n'hésite pas. Hein. Au pire, tu cries pause dans le micro, il n'y a pas de souci. T'envoies un bretzel sur Xavier pour qu'il se taise, il n'y a pas de problème.
C'est pas moi le pire.
Non, c'est pas toi le pire.
Tu peux me taire, parce qu'en fait, t'as des trucs probablement beaucoup plus judicieux à dire que moi.
Non, mais c'est bien parce que
j'attendais une bonne transition pour passer sur la description du point 3.
On va y revenir sur le point 3. Moi, j'ai quand même un dernier point. Tu parles des thèmes. Pour moi, dans l'OSR, t'as aussi, et dans le vieux donjon, t'as aussi un truc qui est assez exceptionnel par rapport au reste du donjon moderne, entre guillemets, c'est le côté étrange d'un certain nombre de scénarios. Qu'est-ce que j'appelle le côté étrange d'un certain nombre de scénarios ? C'est les scénarios où, en fait, t'as un... Qu'est-ce qu'il y a, Sandra ?
Tu voulais en parler ?
Des gens qui me volent mes mots.
Ah, bon, bah écoute, je vais te redonner la parole. les fameux scénars donjons où, en fait, t'as un espèce de vaisseau spatial qui est enterré dans le sol et c'est ça ton donjon et tu trouves des vieux trucs technologiques, des vieux aliens, des choses comme ça. Tu as alors moi un vieux scénar. Tu connais peut-être le château d'Ambreville, Xavier ?
Oui.
Alors ça c'est complètement foutraque aussi.
Mais il y a pire. Il y a Castle Greyhawk qui est vraiment le plus foutraque des scénars officiels quoi.
Ouais. Donc voilà, il y a ce côté étrange et je pense qu'on peut en parler.
Mais ça c'est possible justement parce que les règles elles sont pas figées parce que ça indique que tu peux créer tes règles, tu peux créer des trucs, tu peux
créer ton fluff.
Mais non, on parle de règles. On parle de crunch.
Transition exceptionnelle, Sandra, on t'écoute, troisième point.
Le troisième point, c'est Heroics, not Super-Héros. C'est-à-dire
des
que...
Des héros, pas des super-héros.
Oui, les gens, au niveau 1, dans un jeu old school, on est un pécor de base. Une épée, ça nous tue, on a mal. Au niveau 2, une épée, ça nous tue, on a mal. Au niveau 3, on a peut-être trouvé des sous pour s'acheter une armure. Donc une épée,
sauf,
ça va,
sauf
enfin,
si t'es
ça
un
va
druide
nous faire
et
mal.
Tu prends un double critique dans la gueule.
Voilà. Mais on va avoir mal. Et au fur et à mesure de l'évolution, les persos ne vont pas devenir, comme le dit Matthew Finch, ils vont pas devenir Superman. Ils deviendront plutôt Batman, à la limite, à haut niveau.
On n'a pas joué le même haut niveau que Matthew Finch, alors. Hein. Voilà, ouais.
Non, je pense
alors,
cela dit, l'OSR.
Ça... Non, mais cela dit, c'est très intéressant l'OSR, parce que l'OSR, ça va pas jusqu'au niveau 20, souvent. Hein.
L'OSR, à haut niveau, c'est toujours des personnages qui sont moins puissants que, entre guillemets, dans le jeu de rôle, entre guillemets, classique, dont souvent le rétro-clone ou l'OSR est issu. Un perso de donjon 3e édition au niveau 20, je vais pas dire, mais le mage, il est assez tranquille au milieu de la route. Tandis que dans certains Burning Wheels, sur l'équivalent, sur Hackmaster, sur du Sword and Wizardry. Sur
parce que
du...
là, tu nous cites Burning Wheel, c'est quand même rien à voir.
Non, non, mais oui, non, mais enfin, c'est, j'y ai pensé parce que c'était sur le style.
C'est gritty,
peu...
c'est ça?
Non,
oui, sur
c'est,
le style gritty,
c'est un peu low fantasy, ça reste, surtout.
Voilà, ça reste toujours du, ça reste toujours très gritty comme monde.
Très rugueux. C'est...
Honnêtement, moi, il y a qu'en jouant des campagnes niveau 20 ou 30 en première, deuxième édition que je suis arrivé à balancer 500 attaques dans le round, quoi. Ça m'est jamais arrivé en troisième édition, ça m'est arrivé en quatrième. Je veux dire, il y a qu'en première, deuxième édition que j'ai fait des plans Dragon Ball Z à Donjons et Dragons quand on jouait du 30 et plus, hein. Ça m'est jamais arrivé dans les autres
plus,
éditions.
C'est prévu par les règles, ça?
Alors, il y a un scénario qui s'appelle Bloodstone. Le quatrième opus de la campagne, c'est un scénario qui est prévu pour être joué des scénars par des persos de niveau 100. Il y a d'ailleurs des pré-tirés dans le scénar. C'est un scénar officiel, TSR, Bloodstone Pass, voilà.
Exceptionnel. Sandra.
Alors, quand on me dit c'est pas fait pour devenir n'importe quoi, bah si, à haut niveau, Donjons et Dragons.
Je dis pas que c'est pas fait pour devenir n'importe quoi.
Dans la boîte rouge, la basique, etc., la dernière boîte, c'est immortal. Hein. Tu joues un dieu, tu déplaces des planètes.
Je dis pas que c'est pas c'est fait normal. Pour devenir n'importe quoi. Batman, il est puissant.
Ouais, mais il déplace pas des planètes.
C'est pas Superman.
C'est pas Superman. Bah voilà, mais on
c'est,
peut.
C'est juste ça.
Je te dis. Hein.
Il aime, je t'en prie. On t'a pas entendu.
Autant jouer à Dragon Ball RPG, quoi, du coup.
Ah bah oui, mais nous, on le faisait avant Dragon Ball avec Donjon. Hein.
Voilà. Ouais, mais on n'a pas la licence. Donc, je pense qu'en fait, l'aspect héroïque, des actions héroïques et pas des super-héros, c'est la position du personnage étant un peu subordonné au monde, subissant le monde et cherchant à s'en sortir. L'objectif, c'est Monsieur Sébastien Delfino, Wenlock, qui nous en parlait dans le prochain Radio Rolliste. L'objectif au départ de beaucoup de ces systèmes et beaucoup d'exploration de donjons, c'est de se sortir du donjon. C'est de l'explorer, mais surtout d'en sortir vivant.
Oui.
Et je pense que c'est là le côté héroïque et pas super-héros. Tu traverses pas le donjon en rotoblastant à tour de bras les monstres en face de toi. Non, non, t'es obligé d'être intelligent pour survivre.
Oui, et t'as beau.
Pour moi, ça fait partie de l'OSR, mais en fait, je peux me planter. Hein.
Et c'est ce qui est rigolo, c'est que tu le retrouves même à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, quand on joue au niveau 30, t'avais beau avoir, je sais pas combien de points de vie, des cartes du destin à non plus finir, balancer 500 patates dans le round, etc., on se faisait quand même défoncer la gueule, quoi.
Ok, donc ce
mais alors, tous ces jeux dont on parle, qui sont OSR, qui sont des rétro-clones du premier ou deuxième édition de Donjons et Dragons ou ADD, ils ont des différences quand même, ou c'est les mêmes, ou c'est. Enfin, pourquoi est-ce que j'en lirais deux différents déjà, ou pourquoi est-ce que j'en lirais un, quoi.
Sandra.
Pour moi, oui, ils ont des différences. Certains, souvent, je dirais que c'est souvent pour moi, c'est de la low fantasy, assez gritty pour ceux que j'aime bien.
Sandra.
Mais c'est pas des différences là, t'essaies
c'est de la low qu'ils ont pas dit assez gritty, tu peux pas dire un contexte peu fantastique et difficile, rugueux, je sais pas.
D'accord. Donc
non,
de la petite magie rugueuse.
C'est très bon ça.
Donc j'apprécie particulièrement.
Donc on est loin des 500 patates par round là.
Le système de résolution. Souvent il y a beaucoup de jeux en D20 que j'ai pu tester en OSR. Mes camarades sont peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais il y en a un bon paquet puisque pour moi c'est dérivé de l'OGL. Voilà.
Mais tu vois, le système des vins, Willem, il a donné plein de déclinaisons très diverses, quoi. Ça va du DK système à moderne des vins.
On est d'accord, mais je posais la question juste pour
dans l'OSR, c'est pareil.
Capes and Crusaders,
en fait.
Ou Sword and Sorcery, ou Osric. Est-ce que ça vaut le coup de lire les trois, ou est-ce qu'on parle de systèmes de règles qui sont différents, ou est-ce qu'il y a autre chose?
Moi, ce qui m'intéresse...
En fait, je suis plus intéressé par le fluff, ouais. Comme tu le définis, Xavier, je sais pas. Hein, mais...
Moi, ce qui m'intéresse dans l'OSR, c'est les enfants de ces jeux-là. C'est-à-dire que Osric, en fait, il fait que reprendre Donjons et Dragons première édition. À la limite, quand tu as Donjons et Dragons première édition, si tu passes la barrière de la langue de Gary Gygax, t'as pas besoin d'Osric, quoi.
D'accord.
Par contre, ce travail-là de retour et de rétroclone, il a engendré pour moi une deuxième génération de jeux qui, eux, sont très intéressants. Et là, je peux t'en citer quelques-uns qui
on
valent
le détour. Tout à l'heure, j'aimerais qu'on finisse les points de Sambra, même si on y va un peu plus vite. On finit les points
que vous voulez
aborder, et puis après, on en parle.
Bah, le dernier point, en fait, c'est Forget Game Balance, c'est-à-dire qu'on n'a pas un jeu équilibré. Tout
ça,
simplement.
C'est important, ça.
C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais bien avec Warhammer 2e édition, c'était que j'avais fait une super mini-campagne avec un super ratier, où à la fin, j'étais un ratier très puissant puisque j'avais 4 rats sur mon bâton. J'étais fière de mon perso. Bon, à côté, forcément, au combat, je passais mon temps à courir dans tous les sens pour éviter de mourir.
Mais t'avais pas gagné d'XP dans cette campagne. Pour être resté ratier, t'avais pas gagné d'XP.
4 rats, quand même.
Parce qu'en fait, ratier, je crois que c'était la promo 2, parce qu'il y avait une promo avant. Ou alors,
t'as que 4 rats quand t'es ratier, c'est tout. J'avais oublié ça.
C'était quoi ton quatrième point, déjà? Parce que j'ai oublié.
L'équilibrage du jeu.
Ah oui, l'équilibrage du jeu.
Oui, parce qu'on peut.
Alors, mais à quel niveau? C'est pour les persos, pour les monstres?
Alors,
c'est
à plusieurs niveaux.
Pour les persos, pour les monstres. Tu peux avoir aussi bien avec toi un guerrier surpuissant et un mage tout pourri, ou l'inverse. Tu peux avoir des persos qui vont lancer
Vas-y, continue, pardon.
Qui vont avoir des persos qui seront des stacks de PV, d'autres persos qui auront 3 points de vie. Tu auras des rencontres avec des monstres atteignables ou des challenges atteignables et d'autres où, si en tant que joueur, tu te dis pas « maintenant, il faut qu'on fuit », tu vas mourir, tu le sais. Moi, personnellement, on me met une tarasque en face de moi, je commence à faire « bon, bah c'est pas tout, mais j'ai poney, hein ».
Moi, j'ai tarasque. Non, mais alors, moi, je vais rebondir là-dessus, puis je te laisse parler, Xavier. L'idée pour moi, c'est que l'idée d'oublier l'équilibre du jeu, c'est de dire que le monde ne va pas s'adapter à toi. C'est toi qui t'adaptes au monde. Tu es dans une région où tu as une chance de tomber sur un dragon rouge qui se balade. Si tu tires le dé, tu tomberas sur le dragon rouge. À toi, par ton intelligence, de te sortir de la situation. Tu es dans un groupe où tu es un guerrier super puissant et ton perso est moins puissant. Bah, tu pourras quand même contribuer à la partie parce que tu utilises ton intelligence. Le personnage n'est que, entre guillemets, un costume que tu vas adopter pour jouer au jeu. Mais la personne qui joue au jeu, c'est pas le personnage, c'est toi. C'est comme ça que je le vois. Je pense que ça pose plein de problèmes, mais que c'est intéressant comme approche. Xavier.
Alors, moi, je fais un détour par les jeux vidéo, parce que c'est un débat qui existait vraiment dans les jeux vidéo. Et que nous disent que nous disent les gens qui ont débattu là-dessus, c'est que dans le cadre d'un jeu coopératif, ça n'est pas grave si tout le monde dans le groupe n'est pas aussi puissant du moment que chacun a un rôle à jouer qui soit intéressant. L'équilibrage ne devient important dans un jeu vidéo qu'à partir du moment où il y a un affrontement joueur contre joueur. Et dans le jeu de rôle, c'est pareil. À partir du moment où tu joues pas en PVP autour d'une table, si le magicien est plus puissant que le guerrier, c'est pas grave, tant que le guerrier a quelque chose d'intéressant à faire. Et ça, l'exemple éclatant, c'est l'échec de la 4e édition de Donjons et Dragons. Pour moi, leur échec, c'est un très bon jeu que j'aime beaucoup, mais ils ont fait une erreur grave, c'est qu'ils ont tout équilibré, et du coup, ils ont rendu tout lisse, insipide, équivalent. Et moi, au bout d'un an à faire jouer ce jeu-là, les joueurs m'ont dit « Bon, bah, Xav, faut arrêter, on s'emmerde, on a tous l'impression de jouer la même chose, ça n'a aucune saveur. » Et donc, il est important que dans un jeu, il y ait des personnages qui soient des classes, ou des personnages, ou des types, ou des archétypes, qui soient faciles à jouer, d'autres qui soient complexes à jouer, mais qu'à chaque fois, ce personnage-là ait un intérêt dans le jeu. Par exemple, dans les vieux donjons, le pitch du guerrier, c'est qu'il n'y a pas trop à se prendre la tête, on a des armes, on va bourrer, on a des points de vie, et là, il n'y a pas de complexité. On est assez puissant à bas niveau, à haut niveau on est un peu moins, mais il n'y a pas de complexité. À l'inverse, le magicien, c'est une classe qui n'est pas très intéressante à petit niveau, mais qui va gagner énormément en complexité et qui deviendra passionnante à haut niveau. Et donc, c'est cette différence de gameplay, tout en conservant aux gens des rôles qui seront intéressants, qui fait l'intérêt dans le jeu coopératif. Par contre, si on fait du PVP, eh bien là, il faut que tout le monde ait sa chance. Donc, il faut que toutes les classes soient à peu près équilibrées. Et ça, c'est un enseignement que les gens qui théorisent les jeux vidéo ont fait émerger de manière plus, au moins aussi éclatante que l'expérience 4e édition pour Donjons et Dragons.
Sandra, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ces points-là ?
Pas tant sur ces points, mais sur aussi ce qui, pour moi, fait un OSR qu'on retrouve pas forcément dans tous les jeux, c'est que souvent dans l'OSR, on a du politiquement incorrect. C'est pas lissé comme jeu, comme on peut le voir dans certaines éditions plus récentes où il a fallu ménager la chèvre et le chou. On voit, on a des OSR où il y a carrément des parties science-fiction, Gonzo.
C'est quoi Gonzo?
Si je dis porno à tentacule.
Mais non, c'est un.
Non, c'est Grand Nawak, quoi.
C'est du Grand Nawak. Ah,
ça, quand Gonzo, c'est pas porno à tentacule.
Non,
hein,
c'est du n'importe Nawak, c'est du Nigo.
C'est une charmante, petite marionnette du Muppet Show aussi, Gonzo.
Oui, qui me porte bien
porno,
son nom.
Donc. Bravo.
Qui porte bien son
avec
nom.
Avec Piggy la cochonne.
Je pense qu'on s'égare.
Mais il y avait qui?
Willem.
Oui.
Merci.
Merci, suivant. Willem. As-tu quelque chose à dire à ce sujet-là ou on passe aux héritiers de l'OSR?
Non, pas sûr.
Évidemment, notre podcast a une durée qui doit être limitée nécessairement.
Mais oui.
Alors qu'il y aurait encore des tas et des tas de choses à discuter sur l'OSR. Parce que moi, je pense que c'est, peut-être pour conclure sur cette partie-là, je pense que l'OSR, c'est quelque chose qui est intéressant à explorer. Alors, c'est de la même manière pour moi, il y a un certain nombre de jeux forgiens que j'adore lire, mais que j'aurais beaucoup de mal à jouer, à moins d'être dans des conditions extrêmement privilégiées, notamment parce que c'est des jeux qui abordent des notions très intimes ou des notions difficiles. Donc j'aurais du mal à le faire. L'OSR, j'ai pas forcément envie d'y jouer énormément, mais il y a beaucoup de concepts et de principes de l'OSR que je trouve hyper intéressants, parce que ça te pousse à te poser des questions sur ta pratique de jeu, qui est très très, c'est passionnant de se demander pourquoi est-ce que je ne joue plus comme je jouais autrefois, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer comme on jouait un peu autrefois. Et le troisième point, c'est est-ce qu'on jouait vraiment comme ça autrefois? Voilà. Donc bon.
Ouais.
C'est des questions ouvertes, hein, je vous demande pas d'y répondre. Passons peut-être aux héritiers.
Si tu veux un exemple, il y a une des grosses caractéristiques aussi des jeux à l'ancienne, c'est les tables aléatoires.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et pourquoi est-ce qu'il y a des tables aléatoires? Parce que c'est un support à l'improvisation. Parce que dans les vieux scénars, tout n'est pas scripté. D'ailleurs, souvent, l'intrigue tient sur un papier à cigarette. On décrit juste des lieux, des monstres, etc. Et donc, le maître du jeu va avoir un gros travail d'improvisation. Et donc, pour l'aider dans son improvisation, on va lui fournir des tables aléatoires comme support à son imaginaire.
On va citer.
Je crois que c'est. Il y a un des jeux qui a réussi en financement participatif il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Planète Hurlante, qui est écrit par des gens qui habitent par ici, dans le sud.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je citais Eric Niedan, qui a beaucoup travaillé sur le jeu de rôle procédural, donc la génération de contenu pour le jeu de rôle au fil de l'eau, grâce à des tables notamment, et plein de techniques comme ça. Et je sais qu'il a travaillé sur Planète Hurlante aussi.
Mmh. Voilà. Et je crois que le donjon de Nihilbuck fonctionne comme ça aussi pas mal. Il y a beaucoup de tables aléatoires, non ?
Honnêtement, je ne sais pas du tout.
Je ne sais pas du tout.
Donc, Xav.
Donc, les héritiers de l'OSR qui m'intéressent ?
Ouais, les héritiers de l'OSR qui t'intéressent.
Alors, on part du plus classique au plus bizarre.
Bah, je t'en prie.
Alors, moi, si vous voulez faire du PMT, plutôt que repartir sur de l'OSR, je conseille plutôt Dungeon Slayers. Qui permet de jouer pour moi dans un esprit OSR, de faire du PMT avec un système beaucoup plus solide et beaucoup plus cohérent que les héritiers de Donjons et Dragons.
Ça me fait penser qu'on a eu tout à l'heure une petite remarque de Lionel qui nous disait qu'il y avait, je crois que c'était Lionel, si je me trompe, il m'excusera. J'ai malheureusement effacé la question. Qui nous disait que, il y avait, comment dire, on n'avait pas besoin de l'OSR pour avoir des règles solides, strictes, et bien construites. Voilà.
Oui. Donc voilà, donc Dungeon Slayers pour moi c'est du jeu à l'ancienne, du PMT, mais pas avec les défauts de Donjons et Dragons. Le deuxième qui m'intéresse, c'est j'en ai déjà parlé dans le podcast, c'est Beyond the Walls. qui reprend les règles Donjons et Dragons initial, mais surtout il ajoute toute une génération de monde, une génération d'aventures qui est, elle, très moderne et elle, sans doute, inspirée de pas mal d'expériences forgiennes et qui est très, très intéressant. Voilà. Et mon dernier, Cocorico, c'est Oltre. Pour moi, Oltre, c'est l'aboutissement de l'expérience old school, mais digéré et réinventé avec l'intelligence du Grumpf. Et c'est, voilà, c'est le top, quoi.
À propos d'Oltre, le compagnon d'Oltre vient de sortir.
Nom de Zeus.
Malheureusement,
mon porte-monnaie.
Voilà, malheureusement, il n'était pas en boutique quand je suis passé acheter Sang et Honneur, sinon je serais reparti avec les deux.
J'en ai parlé d'Oltre avec. Vous en avez déjà parlé sur le podcast, donc moi j'ai juste lu le truc du Grog, j'ai pas lu le jeu encore, donc je suis pas expert. Mais j'en parlais avec un ami hier chez qui j'étais dîné, Seb, qui connaît bien et qui, quand je lui ai parlé du podcast de ce soir, a mentionné Oltre. Selon lui, il trouvait que c'était plus une idée très intéressante à lire qu'à jouer, ou peut-être à jouer une fois, mais pas plus, quoi. Donc, mais par contre, je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce que je connais très peu le jeu. Je sais que le jeu, je crois que tout le principe, c'est qu'on génère une carte au hasard pendant qu'on joue. Non, il n'y a pas un truc comme ça ?
C'est
pas
vraiment. Un petit peu plus compliqué que ça. Tu vas explorer une carte dont certains éléments sont posés par le MJ et dont certains éléments sont décidés par les joueurs en fonction de cartes qui tirent au hasard des cartes d'exploration. C'est un jeu qui est très très intéressant.
De rumeurs qu'ils apportent. Parce que si tu veux, dans Oltre, pour gagner de l'expérience, tu définis quelle va être ta mission de la séance. C'est-à-dire que en début de séance, les joueurs disent bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse voilà, on se fixe un objectif et quand on a atteint cet objectif-là en tant que joueur, alors on progresse en expérience.
Voilà, et tu as un côté un peu justement OSR dans le. La nécessité de la gestion de l'attrition, tu as besoin d'avoir des ressources pour pouvoir continuer ton exploration, pour pouvoir continuer ta mission, etc. Enfin bref, c'est un jeu qui est très intéressant. Mais alors, ce qui est très intéressant aussi par rapport à Oltre, c'est que le Grumpf qui a produit Oltre, maintenant n'écrit plus trop pour Oltre. Il a avancé en fait. Et maintenant, il est sur d'autres jeux qui sont un petit peu dans cette inspiration-là, comme Dragon Poche, par exemple, dont la deuxième édition vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Sandra, tu veux en parler de Dragon Poche ?
C'est le jeu que j'ai choisi de présenter aux Utopiales pour les parties d'initiation, car je trouve qu'il est rapide à prendre en main, simple, et qui tourne très très bien pour l'initiation.
Et donc, c'est considéré que ça rentre dans un thème OSR, Dragon Poche,
Je ne sais pas, c'est une question que je me pose, justement.
Disons que c'est un lointain cousin, si tu veux. Pour moi, ces jeux-là, quand je cite Dungeon Slayer, quand je cite Oltre, quand on cite Dragon Poche, pour moi, c'est la deuxième génération derrière l'OSR, quoi. La première génération, elle est collée au vieux jeu, elle est effectivement dans le rétro gaming. Et la génération suivante, c'est les gens qui ont réussi à en digérer les concepts. Pour redonner cette saveur de jeu à l'ancienne, de simplicité de règles, mais avec des concepts vraiment vraiment modernes et à la pointe de ce qui se fait en jeu de rôle actuellement, quoi.
Ok.
D'ailleurs, est-ce que c'est mieux de jouer en OSR ou de jouer à des héritiers de l'OSR ? Est-ce qu'on a un jugement de valeur ? Est-ce qu'on peut donner un jugement de valeur vis-à-vis de ça, à votre avis ?
Comme pour tout jeu, pour moi, ça dépend de ce que le MJ et la table désirent avoir comme ressenti lors de la partie.
Je pose cette question parce qu'en écoutant le discours de Xavier, j'ai l'impression justement que tu juges un petit peu le côté. Tu dis, voilà, l'OSR, c'était intéressant. Il y a des gens qui ont su en tirer la substantifique moelle et l'appliquer avec des versions modernes et ça a l'air de beaucoup plus te plaire.
Je te renvoie à l'expérience qu'on a eue, Julien, puisque on a fait un scénario troisième édition qui s'appelle Way of the Wicked,
oui,
que moi
j'ai
fait jouer avec un petit mix entre les règles première et deuxième édition de Donjons et Dragons. C'était très sympa, ça nous a replongé dans un imaginaire et dans une expérience, mais au bout de quelques séances de jeu, on était bien content de repasser à la cinquième édition, quoi.
Ouais, mais c'est très rigolo que t'en parles parce que finalement. Je pense que si cette expérience s'est mal terminée, c'est parce qu'on n'était pas du tout dans l'esprit OSR quand on y jouait. On était dans l'esprit moderne.
Peut-être.
Parce que globalement, cette campagne s'est terminée sur un TPK. Hein,
comme souvent à Donjon.
Voilà, tout le monde est mort lors de l'attaque d'un château. Et pourquoi ? Parce que on l'avait super mal préparée. Mais parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait la préparer.
Ouais, vous aviez pas compris que l'attaque du château c'était un donjon et que, par contre, Sandra, quand elle l'a joué, elle a tout nettoyé, c'était un vrai massacre, quoi.
Non. En fait, Étant donné qu'au moment de l'attaque du château, il y avait déjà un joueur qui en était à son troisième personnage, on s'est dit que on va peut-être mourir, on va peut-être prévoir un plan de secours, et puis un plan de secours au cas où le plan de secours ne fonctionnait pas, et puis un plan de secours pour le plan de secours, et puis après tout, on va faire chacun pour soi.
Enfin voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que les vieilles règles, elles ont quand même besoin d'un bon dépoussiérage. Il y a quand même des trucs qui étaient lourdingues, des trucs qui marchaient pas très bien. On peut avoir la nostalgie de c'était mieux avant, c'était simple, on pouvait réifier des règles nous-mêmes. Il n'empêche que quand c'est bien fait par un type qui fait les choses bien comme le Grumpf, je pense qu'il y a une autre saveur. On n'est pas obligé. Ce qu'il faudrait. La deuxième génération de l'OSR, c'est que on apporte à cet esprit jeu à l'ancienne toute la modernité de l'avancée des théories du jeu de rôle et arriver à prendre ce qu'il y a de sympa dans le jeu à l'ancienne et ce qu'il y a de sympa dans les théories forgiennes pour faire un jeu qui soit un pas devant, tu vois.
Tu veux dire qu'on pourrait utiliser l'avancée des réflexions sur le jeu de rôle pour jouer sans se prendre la tête à des super jeux?
Exact.
Wow. Mais par contre, ceci dit, il y a un des trucs que j'ai senti pendant la conversation à quelques moments, et parfois, ouais, je me demande si on est en train de parler d'Ancien et de Nouveau Testament. Donc, du coup, s'il y a un côté un peu religieux qui empêche ce que tu viens d'écrire.
C'est super intéressant ce que tu dis là, Willem.
Moi, c'est un petit peu ça, je trouve.
Ouais. Sandra, vas-y, développe.
On en revient aux fondamentaux, à la Bible de base du jeu de rôle. Donc après, est-ce que c'est la même pour tout le monde ou pas? Mais c'est un peu ce que l'OSR, le retour aux fondamentaux. Si je dis que les gens qui font de l'OSR sont les mormons du jeu de rôle, ça passera pas peut-être.
Ben, je sais pas, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si on retourne aux fondamentaux, on n'a qu'à arrêter de faire du jeu de rôle, on fait du wargame, quoi.
Les mormons, je ne sais pas, mais les Amish, sûrement.
Je sais pas, le jeu.
Je préfère être mormon.
Comment dire?
Mais en tout cas, il y a des passions qui s'animent autour de ça, qui relèvent d'un truc un peu religieux quelque part.
Mais parce que chaque version de Donjons et Dragons est différente. T'as vraiment les gens qui aiment le jeu à l'ancienne, les gens qui aiment la troisième édition, enfin la 3.5, les gens qui aiment que Pathfinder, les gens qui aiment, qui ont adoré la quatrième édition, les gens qui ne jurent plus que par la 5. C'est-à-dire que à chaque fois, quand ils font une nouvelle édition de Donjons et Dragons, en fait, ils font un jeu différent.
Bah, la guerre des éditions, c'est un truc qui a animé le net et les forums pendant des années et des années, et qui continuera à le faire, à mon
avis. Et qui est presque exclusif à Donjons et Dragons. Je veux dire, t'as pas de guerre des éditions à l'Appel de Cthulhu, t'as pas de guerre
des
éditions.
Pourtant, t'en as plus des éditions.
Et pourtant, t'en as plus, hein. Et elles coûtent cher, parfois, hein.
Ouais, mais il y a pas des gens. Alors, est-ce qu'il y a des gens vraiment férus de Cthulhu qui vont s'engueuler avec des gens qui sont adeptes de donjons? Oui, c'est possible, en fait.
Mais ça s'entend. C'est deux jeux différents qui proposent des expériences différentes. Donc forcément, tu peux ne pas être d'accord. Mais quand on te dit, on vient de sortir.
Pourquoi ne pas être d'accord, remarque, non, à la base, après, c'est intéressant.
Tu vois, le mensonge dans tout ça, c'est que quand on te sort la troisième édition de Donjons et Dragons, on te dit c'est du Donjons et Dragons alors que c'est un nouveau jeu. Et quand on te sort la quatrième édition, on te dit c'est du Donjons et Dragons alors que c'est un nouveau jeu. Et quand on te sort la cinquième, on te dit c'est du Donjons et Dragons et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant. C'est moins vrai pour la cinquième.
C'est moins vrai parce que la cinquième, justement, elle pioche dans un certain nombre, ouais, d'éditions anciennes des choses qui ont plu aux gens. Et c'est là qu'elle a été très intelligente, à mon avis.
Mais moi,
est-ce que vous avez lu le AMA Ask Me Anything de Jonathan Tweet?
Oui, pas encore, non, malheureusement.
Il y a quelques jours.
Est-ce que tu l'as lu, Willem? Tu veux nous en parler?
Bah, je l'ai lu, mais alors le truc qui est rigolo, c'est qu'il faudrait le savoir de Xavier et de Sandra et pas de Julien aussi, parce que. Moi, je dois avouer, c'est embarrassant sur le podcast, hein, mais moi, j'ai jamais lu la troisième, quatrième ou cinquième édition de Donjons et Dragons. Hein.
Mais tu n'as rien perdu.
Hérétique.
Ah, mais moi, je suis hérétique complet. C'est pour ça que je parle de religion.
Ouais, mais toi, tu parles avec des créateurs de jeux qui sont aussi très intéressants et vivants. Donc
voilà. Donjons et Dragons est mort.
Non, non, mais alors, par contre, c'est normal, la raison pour laquelle je parlais de Jonathan Tweet, c'est que c'est un des co-écrivains, un des écrivains principaux de la troisième aide. Donc, absolument, il a fait un AMA il y a 3 jours, quoi. Donc évidemment, il y a eu énormément de questions autour de la troisième édition de Donge et il a parlé en détail de ce que il a vu après coup, de ce qui marchait et marchait pas, de pourquoi il est parti dans cette direction et de ce qu'ils essayaient de faire et de ce qu'ils se sont rendu compte de ce qui marchait pas. Le truc, c'est que je comprenais pas la moitié de ce que je disais parce que j'ai pas lu le truc. Donc
Sandra, tu l'as lu ?
J'ai pas lu le système à la base.
Sandra l'a lu et Sandra va pouvoir nous faire un petit commentaire.
Ah, très bien, pardon.
J'aimerais juste le retrouver.
Le temps que Sandra recherche. Moi, alors, ce que je vais dire, honnêtement, c'est super polémique parce que tu vois bien, dans Donjons et Dragons, t'as 15 milliards de courants. Mais pour moi, jusqu'à la 5e édition, Donjons et Dragons était un petit peu mort avec TSR. Pour moi, l'édition ratée de Donjons et Dragons, c'est la 3e édition et ses clones. La 4e, c'était une expérience qu'il fallait faire, qui n'a pas été concluante. Mais voilà, pour moi, l'édition qui me viole le plus, eh bien, c'est la 3e édition et ses clones. Et c'est pour ça que je comprends vraiment l'envie des gens qui ont développé l'OSR.
Moi, j'ai les éditions de la 2e de ADD, l'original de Donjons et Dragons. Comme c'est bien d'avoir des trucs dans un musée, ils sont sur une étagère, je les ouvre pas. J'ai ouvert une fois, j'ai essayé de lire, j'ai rien compris, ça m'a saoulé.
Oui, bah bien sûr.
Moi, j'ai. Mais bizarre, hein, ils sont parce que j'ai le respect de l'ancienneté, de là où ça vient, d'où vient le hobby, quoi. Mais
il faut picorer dans ces éditions. Il faut pas essayer de les lire, tu vois. Il faut pas prendre le bouquin et se dire je vais le lire. Il faut picorer de temps en temps, aller lire, le lire comme tu lirais des articles, tu vois. De temps en temps, tu l'ouvres, tu dis tiens, qu'est-ce qu'il disait là-dessus.
Ouais, ok. Bah, je pense que j'essaye de cette manière-là.
Hein. Il faut pas le lire de manière séquentielle, quoi. Après, je sais pas si le plus intéressant, c'est vraiment le manuel du joueur ou ce genre de truc, quoi.
Je suis pas sûr. À part pour un peu plonger dans les idées de game design de l'époque, je vois pas trop l'intérêt de s'y replonger. Sauf si tu veux y jouer, je vois pas trop l'intérêt de s'y replonger aujourd'hui.
Oui. Après,
après, je peux encore une fois. Hein, c'est parce que le travail d'historien qui est lié à ça n'est pas quelque chose qui me passionne.
Tu vois. Alors moi, par exemple, dans le Dungeoner Survival Guide première édition, il y a tout un article sur les compétences. Mmh. Et ils expliquent que, eh bien, oui, on est en train d'essayer de mettre des compétences dans Donjons et Dragons, et que à Donjons et Dragons, quand t'as la compétence, eh bien, ça veut dire que t'es compétent et que tu sais faire ce que tu as à faire et que tu réussis. Mmh. Et donc, en fait, le jet de compétence, il nous dit pas si tu vas réussir ou si tu vas rater, mais il va permettre de qualifier la réussite. Combien de temps il te faut? Est-ce que tu réussis de manière exceptionnelle ou de manière médiocre? Et ça, je trouve que c'est une réflexion très moderne pour 1985.
Oui, absolument. Il y a des trésors.
Il y a des pépites, mais le problème, c'est que
je pense qu'il doit y en avoir parce que ça, je nie pas que énorme, pas ça, tout vient de là, hein, quand même. Ça, c'est sûr, mais.
Mais la difficulté que tu soulèves, Willem, elle est là, c'est que ces quelques pépites, elles sont noyées dans une bouillasse qui est souvent difficile à lire, quoi. Lire les bouquins TSR, c'est pas facile, quoi. C'est souvent mal écrit, quand même.
Ok. Est-ce que tu es prête, Sandra?
Alors, je vais faire très bref parce qu'il a vraiment joué le jeu.
Oui.
Et il a répondu à des centaines de questions. Donc, il y a vraiment beaucoup de... La conversation était très intéressante à suivre. Mais en gros, il a dit qu'il est très fier de la 3e édition, quand même. Qu'ils ont tenté, lors de la 3e édition, de faire de Dédé ce que Dédé aurait dû être sans la 2e. Il aimait la 4e sur certains points, la 5e beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'il a créé 13e âge.
Ah voilà, je cherchais le nom de ce jeu.
Donc, comme c'est parce que il a vu les problèmes de balance, équilibrage qu'il y avait dans la 3e édition, qu'ils ont recréé un jeu de 13e âge afin d'avoir ce qui leur a plu avec la 3e en résolvant les soucis de la 3e.
Ah oui, il disait que la classe du prêtre était surpuissante comparée aux autres, par exemple, un truc comme ça.
Ah oui, en 3e, un prêtre qui lance une cana, il y a beau avoir une forte opposition en face.
Enfin, dès la 2e édition, le prêtre, il est over bourrin déjà.
Le prêtre, il peut lancer des sorts et combattre sur le même round. Enfin, il peut faire beaucoup d'actions, ce qui fait qu'il est le personnage. On a un prêtre à une table de jeu. Bon, bah, ça va.
Et puis en multiclassé, c'est abominable aussi, je crois.
Oui.
Enfin bon, mais ça, c'est des détails de système, si tu veux. Enfin, voilà.
En fait, c'est sur ça surtout qu'il a répondu. 13e
âge est vachement intéressant de ce point de vue-là, parce que on parlait tout à l'heure de la difficulté. Tu disais, le guerrier est simple à jouer, c'est son principe. 13e âge, ils se sont basés là-dessus. Dans chaque description de classe, ils te disent, voilà, vous voulez jouer un perso simple, jouez un barbare.
Vous voulez jouer un perso un petit peu plus compliqué qui fait tel truc, jouez telle classe. Vous voulez jouer un perso qui a 50 trucs à gérer en même temps, jouez telle autre classe, etc. Et il te classe vraiment l'ensemble des classes de perso en fonction de la difficulté du gameplay de la classe. Donc ça, c'est un point que j'avais bien aimé dans 13e âge. Malheureusement, je l'ai pas testé comme jeu.
Mais bon, je l'ai pas lu non plus. Et d'ailleurs, je parlais de Greg Stolzi, qui est un des co-créateurs de Non Armies, dont j'ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. Son dernier projet, c'est qu'il a écrit un roman d'action dans l'univers de 13e âge. Du coup, j'étais en train de regarder le... Enfin, je n'ai pas encore lu le livre, mais... Et le bouquin du jeu, d'ailleurs. Mais ça m'a intéressé au système, quoi.
Après, voilà, dans les autres mecs qui ont bossé fortement sur la 3e édition, il y a Monte Cook. Et Monte Cook, il nous a pas fait 13e âge, quoi. Il nous a fait Numenera. Hein, c'est pas pareil, quoi.
Ouais, mais c'en est...
Et tu veux dire que c'est mieux, c'est ça?
Non, c'est différent.
Avec 13e âge, je trouve pas qu'ils sortent du paradigme. Avec Numenera, ils posent un autre paradigme en termes de jeu, quoi.
D'accord. Non, je sais pas, j'ai pas lu 13e âge, en fait. Donc,
et les scénarios sont tout aussi fourraves. Ils ne changent pas de paradigme, malheureusement.
Alors, attention, parce que les scénarios de Monte Cook, pour Donjon et dans TSR, sont souvent pas mal, quoi.
Ouais. Alors, petite remarque de nos auditeurs, on en profite, hein, vu qu'on est un petit peu au bout de ce propos-là. Lionel nous dit, moi je fais jouer avec le Rules Cyclopedia, acheté sur D&D Classics. Ouais. Mais Xavier a raison, je ne prends pas toutes les règles.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, de toute la période de TSR, sans doute le plus intéressant, c'est le Rules Cyclopedia. Je suis à 200% avec toi.
Et Erwan nous dit que le classement de difficulté dont on parlait pour notamment 13e âge lui fait penser au MMO et au système de MMO, en fait. Donc ça nous refait le lien entre, comme tu disais, le jeu vidéo et le jeu de rôle, quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant avec la 4e édition de Donjons et Dragons, c'est qu'on lui a reproché d'être un MMO. Or, franchement, parmi les jeux qui me font le plus penser à Donjons et Dragons, bah, y a World of Warcraft, quoi. Hein, World of Warcraft, EverQuest, c'est du Donjons et Dragons mis sur ordinateur, hein, et l'influence, l'impact de Donjons et Dragons sur les jeux vidéo en général et sur est énorme. Donc si après il y a la boucle est bouclée et qu'il y a un petit retour des jeux vidéo qui viennent infuser dans le jeu de rôle en version classique, moi ça me paraît pas délirant, hein.
Oh, c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment se discuter, c'est-à-dire que le jeu vidéo a l'avantage d'avoir un tel succès et suffisamment d'argent pour attirer des chercheurs qui vont faire des chercheurs, des designers, pas forcément des chercheurs intello, je veux dire des gens qui cherchent des solutions pour accomplir leurs objectifs. Et donc il y a forcément quelque chose d'intéressant qui s'en détache. Est-ce que tous ces points intéressants peuvent s'adapter au jeu de rôle? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense qu'on peut faire du jeu de rôle en les adaptant.
Dans Donjons et Dragons, dès le départ, tu sais que tu vas avoir besoin d'un prêtre pour soigner, tu vas avoir besoin d'un guerrier pour tanker, tu vas avoir besoin d'un voleur pour désamorcer les pièges, tu vas avoir besoin d'un magicien, etc. Mais le seul moment où on le théorise vraiment, c'est quand on commence à jouer au MMO de manière hardcore, quoi.
Ouais.
C'est là que cette conscience de ses rôles, elle émerge fortement, depuis les origines. Hein.
Bah, je sais pas, nous, quand on jouait à Donjon, on se posait pas ces questions-là.
Eh ben, quand tu relis...
Le prêtre, je suis d'accord. Le prêtre, il fallait un soigneur, ça c'était obligatoire. Mais par contre, tout le reste, on se la posait pas vraiment la question. Mais en fait, je rapproche ça de mes premières expériences sur WoW. On va reparler de notre ami Steve, hein, Willem, puisque c'est avec lui que je jouais à cette époque-là. Quand on jouait avec Steve à WoW, on jouait avec Steve, son petit frère, des amis, etc. Dans le groupe qu'on avait, on n'avait pas de guerrier, on n'avait pas de tank. Bon, moi, je faisais un voleur, lui, il faisait un chasseur, son frère faisait un chasseur, et de temps en temps, on avait un pote qui venait jouer une prêtresse. Et on se faisait les donjons dans cette configuration-là, tu vois. Donc vraiment, on n'était pas du tout dans le paradigme MMO, hein, à l'époque.
Et ça marchait bien ?
Ah, ça marchait super mal, mais on s'éclatait, parce qu'on faisait du roleplay et tout. On se faisait défoncer la gueule, mais c'est pas grave, c'était rigolo, quoi. Et ça se rapproche de la façon dont on jouait au jeu de rôle, dans des contextes de jeu de rôle qui étaient semblables à ça, parce qu'à l'époque de la sortie de WoW, on jouait plus trop à Donjons et tout, mais on jouait à d'autres jeux.
Parce que voilà, si on revient au Rules Cyclopedia dont on parlait, qui est l'héritier, donc la compilation des règles issues de la génération de la petite boîte rouge de Donjons et Dragons. Dans la petite boîte rouge, on t'explique que le guerrier a un rôle, c'est d'aller en première ligne pour permettre au magicien de derrière de lancer ses sorts pendant que le prêtre ira le soigner, etc., etc. Et c'est écrit noir sur blanc dans le bouquin, tu vois.
Vas-y, Willem.
À ce moment-là de description des règles, est-ce qu'on est encore, enfin peut-être, enfin je pense qu'on est encore très très proche des origines du JDR, quoi.
La boîte rouge, c'est 1981, hein, un truc.
C'est ça, ouais. Non, mais je veux dire, on est encore très très proche, donc forcément, ce qui est décrit là-dedans, c'est ce qui doit être fait sur un plateau de jeu.
Voilà, mais ce qui a démocratisé ce système de rôle, effectivement, c'est les MMORPG et avec les notions de tank, d'assist, de support, de DPS, etc.
Mmh. C'est un peu triste d'ailleurs, moi je trouve, hein, mais bon. C'est un peu triste d'en être confiné à ces rôles-là plutôt que de se demander qu'est-ce que je vais vouloir jouer. Mais bon, c'est aussi dans l'optique
ça dépend
de dungeon crawling, efficacité,
voilà,
défi, etc.
C'est
pas ce que je préfère.
Si t'es à fond dans le ludisme, voilà, de même que moi, le simulationnisme, ça me saoule. Fleuve, j'aime pas. Et pourtant, il y en a qui m'ont touché. Je veux dire, hein, on parlera jamais assez de Dark Sun. Mais voilà.
Mais tiens, pour revenir sur ce côté-là, c'est un point qu'on n'a pas mentionné et je pense qu'il est important de mentionner. Il y a un des grands plaisirs de l'OSR en supplément de la nostalgie, qui va être le fait, parce que de ce que j'en ai entendu, le fait de pouvoir dire « ce module, je l'ai fait, j'ai survécu ».
Ouais, parce que les modules, enfin les scénars officiels, ils sont peut-être pas terribles en termes d'histoire et de narration, mais en termes de défis techniques, ils se posent là, quoi. Si on joue les règles de l'époque... c'est plutôt pas facile d'en sortir vivant avec le même perso.
T'en as un qui est légendaire de ce point de vue-là, qui s'appelle The Tomb of Horrors.
Ouais, mais il a été particulièrement, il a été particulièrement dessiné
pour tuer les joueurs.
Donc,
c'est comme les pièges de Grimtooth. Hein.
Voilà.
Pour l'OSR aussi, quelque chose qui peut marquer parfois un livre pour OSR, c'est cette sensation d'avoir un livre qui provient d'un garage de quelqu'un. Imprimé souvent en format A5, avec des illustrations d'une qualité assez originale et particulière.
On peut parler de Lamentation of the Flame Princess, d'ailleurs, à ce propos-là.
Pourquoi ? Parce qu'il est mal imprimé ?
Non, mais je crois que c'est le jeu dans lequel tu as une petite image en bas des pages, et quand tu tournes les pages rapidement, tu vois quelqu'un se faire décapiter, ou une tête,
oui.
Une tête qui se décompose, non, c'est ça plutôt ?
Oui, il y a ça, et puis il y a beaucoup d'illustrations qui peuvent être dans ce petit jeu très sympathique, interdit au moins de 18 ans.
C'est Zach Smith, hein, donc...
Ouais.
Oui, mais c'est mignon.
C'est lui, la Lamentation of the Flame Princess, ou lui, c'est juste... Alors c'est quoi le Red and Pleasant Land, le dernier qui a eu du succès, je me souviens plus.
Ouais,
pardon, hein, désolé, on essaiera de retrouver ça et de corriger les erreurs sur les notes de podcast. Bien. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur l'OSR ou est-ce qu'on boucle un petit peu le sujet ?
Oh, je pense qu'on a. Il y aura sans doute des milliards de trucs à dire encore, mais je crois qu'on a balayé le plus gros.
Oui, on a parlé de ce dont on voulait parler, ce qui était important pour nous à ce sujet-là. Est-ce que
j'ai une question
vas-y,
quand même
je t'en prie, vas-y.
C'est un autre truc que Seb m'a demandé hier. Un jeu comme Bloodlust qui a été refait récemment, est-ce que ça compte parce que c'est du Medfan un peu, enfin spécial, mais est-ce que ça pourrait être considéré dans le même genre de mouvance OSR ou c'est
alors,
carrément
pour moi pas du tout, Xavier.
Pour moi ça pourrait parce que la deuxième édition de Bloodlust est un autre jeu que la première édition, c'est-à-dire ils ont pas juste repris les règles, dépoussiéré et amélioré le truc. Ça, c'est ce qu'ils ont fait pour le BG, pour le Fluff. Mais les règles, c'est un autre jeu. Et moi, si j'aime beaucoup cette deuxième édition, pour moi, c'est pas du Bloodlust parce que ce jeu est trop héroïque. Ils ont complètement perdu le côté gritty du Bloodlust première édition que j'adorais. Et donc moi, si demain je fais jouer du Bloodlust, eh bien, je vais m'inspirer fortement de cette deuxième édition en termes de BG, en termes de description, en termes de support aux joueurs. Et je jouerai avec le premier système.
Du Fluff.
Un minimum, quoi. Vraiment le minimum, tu vois.
Pour moi, Bloodlust, ça n'a jamais fait partie du mouvement OSR pour une raison
simple.
Il pourrait y avoir un effet OSR, tu vois. Parce que ce qui s'est passé, ce qui a été refait dans le jeu, ça pourrait être considéré comme quelque chose de parallèle
d'accord.
et similaire, en fait.
Okay,
moi, ça me fait le même effet, si tu veux. Moi, je passerai jamais, en termes de système, à la deuxième édition de Bloodlust. Et donc, quelque part, je pourrais être dans une logique d'OSR, de dire, si vous voulez jouer à Bloodlust avec des règles première édition un peu dépoussiérée, pour moi, il y a un créneau là-dessus, tu vois.
Ok.
Ouais. Ok. Ouais, très intéressante question. Autre chose ?
Mais Sandra, elle n'a rien dit, mais elle pense comme moi.
Pour ma part, Bloodlust Metal n'est pas apparenté au mouvement OSR.
Oui, mais
pour moi, Bloodlust non plus. Donc,
Tu avoueras que Bloodlust Metal, même si le système Metal est un très bon système, attention, j'attaque pas du tout le système Metal, c'est un très bon système, mais pour moi, c'est trop héroïque pour du Bloodlust. Voilà.
Ah, mais moi, la question était, est-ce que cela peut être apparenté au mouvement OSR ? Pour moi, la réponse est non.
Mais il pourrait y avoir un OSR Bloodlust.
Ce serait pas un OSR, mais ce serait le même genre de phénomène où on va se dire, on va s'inspirer de ce jeu-là pour essayer de retrouver les sensations initiales.
C'est, c'est un argument sur les termes, quoi. C'est pour dire, OK, OSR, c'est du donge, mais dans ce cas-là, old school, si on parle de old school, on pourrait être en train de parler de hip-hop et d'autres trucs, sinon aussi. Hein.
Non, mais tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que Sandra est très, très attachée au côté donjon de l'OSR, en fait.
Et à l'OGL.
Et à l'OGL.
Non, plus à l'OGL, personnellement, qu'au côté donjon. Parce qu'en OSR, il y a Star Without Numbers, qui est du... il est apparenté.
Oui, ok. C'est du jeu à l'ancienne dans les étoiles.
Ah non, mais là, il est apparenté au système de règles demain, quoi, du coup.
À l'ancienne.
Oui. OSR. Hein.
Ouais, ouais. Mais...
Même s'il est moderne.
Et puis rien à
c'est
voir
pas
avec.
Moderne, c'est du D20.
Voilà.
Oui, non, mais bon.
Et en
vrai, je fais old school trop.
Et un OSR aussi dans un autre setting que du dans un autre setting, pardon, Julien, que du Medfan. Il y a Weird West aussi qui est considéré comme de l'OSR version cowboy, quoi. Enfin voilà, c'était pour conclure.
Ok, très bien. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'OSR pour nous. Vous voyez que c'est un sujet qui déchaîne un peu les passions. Je tiens à remercier chaleureusement les auditeurs qui sont intervenus pendant le podcast. N'hésitez pas, on essaye de prendre les questions. J'en ai peut-être raté une ou deux, mais merci de nous écouter, merci d'être là pendant le direct. Et puis,
merci.
Continuez, posez vos questions, intervenez, contredisez-nous si on raconte n'importe quoi. Ça peut arriver, ça arrive souvent même d'ailleurs, j'imagine. Hein. On nous l'a déjà fait remarquer, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Et merci à vous. Alors, traditionnel tour coup de cœur, coup de gueule, est-ce que vous avez des choses à dire, des choses qui vous ont enthousiasmé? On a déjà parlé malheureusement de Sang et Honneur, donc on s'est grillé un peu cette cartouche-là.
Alors moi, en préparant le podcast, je me suis plongé dans un autre podcast américain qui s'appelle Gamer's Table, qui est, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils en disent. Ils jouent un petit peu à l'ancienne, comme ça, sur des jeux Donjons et Dragons, Shadowrun. Ils commencent à s'ouvrir un peu, et c'est un podcast américain, toutes les semaines, de 30-35 minutes. Ils sont très compréhensibles. Donc, c'est un vrai plaisir. C'est mon petit coup de cœur de la semaine.
Pas de coup de gueule?
Si, il y en a marre des podcasts d'Altarid où on passe des heures à préparer, à lire plein de trucs passionnants, à prendre 3 tonnes de notes. J'étais parti cette année sur un rythme un peu plus pépère. Eh ben, c'est raté, Julien. Permets-moi de te le dire.
Merci à toi pour tes efforts.
Xavier. Heureusement que tu n'as jamais rien à dire lors des podcasts.
Jamais, rien.
Sandra.
Alors, moi, mon coup de cœur, c'est très personnel. C'est le mariage auquel je me suis rendue récemment. Félicitations au couple rôliste de mariés qui, pour petit cadeau d'invités et comme petite cérémonie, ont choisi plutôt que de mélanger du sable, de mélanger 2 sets de dés, un rouge et un blanc qu'ils avaient fait personnaliser. Et chaque invité repartait avec 2 dés 10, donc personnalisés aux couleurs des mariés, des invités rôlistes, une entrée sur la marche impériale, la musique d'ouverture de bal, d'Ovaking, de Skyrim, l'entrée de la cérémonie laïque sur du Hapney Park. Donc personnellement, tous mes vœux de bonheur à nos amis qui se reconnaîtront.
Cédric,
voilà.
Et
s'il nous écoute.
Et mon coup de gueule, alors c'est rien à voir du tout. Mon coup de gueule, c'est le prix des jeux de Square Enix sur la plateforme Android. Dépenser entre 15 et 20 euros pour jouer à un jeu où la portabilité et la jouabilité est parfois assez aléatoire, comme sur Final Fantasy VI, ça m'agace quelque peu. Après, j'avoue que je les ai dépensés parce que c'est quand même du Final Fantasy VI et que je suis un être faible, mais c'est cher.
Ok, super.
C'était ça le coup de gueule qui avait rien à voir du tout avec le jeu
bien.
De rôle.
C'est très bien, mais t'as raison, il faut. Hein, c'est fait pour ça, les coups de gueule aussi. Willem, on t'écoute si tu as des choses à mentionner.
Oui, j'étais en train d'y penser. J'ai trouvé le bon coup de cœur, en fait. C'est que je monte à Paris et vous rencontrer en personne. J'ai pas rencontré Xavier ni Sandra en personne, donc on va aller boire un verre, ça va être chouette.
Est-ce qu'on fait ça entre nous ou est-ce qu'on invite des auditeurs?
Je sais pas, c'est comme tu veux, Julien.
Bon, ouais, écoute, on en rediscutera et on verra si on invite des auditeurs ou pas.
Ouais, j'ai juste. Mais on pourra. J'ai pas trop pensé à ça quand je le disais.
Je sais bien.
À défaut de le faire avec toi, Willem, on pourrait réfléchir à se faire un enregistrement de podcast public quelque part cette saison, mon bon Julien.
Ah, mais moi, ce serait avec plaisir. Hein.
Ça, c'est vrai, vous devez.
Et peut-être qu'il y a des gens qui participeraient à distance, Sandra, c'est ça? Ça te dit pas tellement d'enregistrer en public?
Pourquoi pas?
Alors, parler en public.
C'est difficile pour Sandra de parler dans le micro, alors parler en public, vous imaginez.
Tu peux te cacher derrière une tenture.
Ah, vendu.
Et puis le coup de gueule, ça va être un truc bête. Hein, mais c'est...
Je t'en prie.
Il a fait un peu moins beau à Perpignan et je me suis dit, oh, il fait froid et tout, ça craint. Et puis après, j'ai regardé combien il faisait à Paris. En fait, j'ai hâte à ce côté-là.
Je change mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est Willem qui nous taunte avec la température à Perpignan.
Quelle température à Perpignan ces jours-ci?
Elle est facile. Elle est facile, ce jour, il fait beau. Mais bon, non, là, il faisait pas beau, là, ces deux derniers jours. Il y a même plus, quoi, disons.
T'es sûr?
Ah, il y a eu un peu de bruine hier soir.
D'accord. Eh ben, écoute.
Moi.
Alors, je vais commencer par un coup de gueule, parce que le coup de cœur, j'en ai éventuellement plusieurs, mais je vais commencer par un coup de gueule. Le coup de gueule, c'est, je disais que j'étais allé acheter, en boutique de jeux de rôle. Chez Star Player, je suis passé aussi chez Jeux des Cartes, hein, c'est dans le même quartier, pour aller acheter sans et honneur. Et comme à chaque fois que j'y vais, c'est douloureux pour moi d'aller dans ces boutiques quand je vois la portion congrue qui reste au jeu de rôle. On va prendre un exemple. On va prendre Jeux des Cartes. Jeux des Cartes rue des Écoles. Donc les rôlistes parisiens connaissent un petit peu le lieu. Jeux des Cartes rue des Écoles, vous aviez un sous-sol. Dans ce sous-sol, vous aviez 80% de jeux de rôle et peut-être un mur qui était dédié à quelques jeux de plateau et wargame.
Il y a combien d'années?
Ah bah
il y a 15-20 ans.
Sacré bon nombre d'années, voilà. Aujourd'hui, quand je vais dans ces boutiques-là, je vois deux étagères de jeux de rôle qui se battent en duel. Et c'est terrible parce que moi, j'ai découvert le jeu de rôle, j'ai découvert des jeux complètement différents, importés, bizarres, etc., dans ces boutiques-là, et j'allais dans ces boutiques de jeux pour découvrir le jeu de rôle, pour découvrir des trucs complètement fous, quoi. J'allais rôder dans les rayons, j'allais même dans une boutique qui est fermée aujourd'hui, qui était le jeu des cartes à Pasteur, qui était...
je me souviens de celle-là aussi.
Bah ouais, carrément. Et c'était génial, parce qu'on arrivait dans ces boutiques, on avait une table sur laquelle il y avait les nouveautés, on feuilletait les nouveautés. Quand on avait bien vu les nouveautés et qu'on se rendait compte que de toute façon on était jeunes, on n'avait pas de thunes, on pouvait pas les acheter, ou alors on pouvait peut-être en acheter une, on allait dans les vieux rayons derrière, avec les imports, avec les jeux un peu oubliés, et c'était génial. Aujourd'hui, quand je veux faire ça, je vais un peu sur Drive-Thru RPG, vaguement. Sachant que c'est un peu frustrant parce que je trouve pas forcément ce qui m'intéresse, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui sortent et qu'il y a pas beaucoup de tri. Donc c'est un peu difficile de faire soi-même son tri.
Ah oui, le tri, il est très mal fait sur le site aussi. Hein.
Voilà. Et donc, mon coup de gueule, c'est ça. Alors je sais qu'il existe des boutiques et je sais que les vendeurs de boutiques de jeux de rôle, c'est pas forcément par désintérêt pour le jeu de rôle qu'ils en arrivent là. Si on va à Love Cube, il a conservé la majeure partie de ses rayons. Bon. Il en a perdu un peu, mais il a conservé la majeure partie de ses rayons par rapport à il y a 10 ans. Hein.
Mais il doit y avoir... Ce qui est intéressant, c'est de regarder quel va être ou est-ce qu'il y aura un nouveau modèle économique pour présenter des produits, un équivalent d'un libraire pour le jeu, quelqu'un qui s'y connaît, quoi, mais dans un environnement qui lui fasse gagner assez de sous pour qu'il puisse être là, quoi, même s'il n'en vend pas de livres. Enfin, je ne sais pas comment ce serait. Mais...
C'est ça le problème, c'est que l'ambition, pour en avoir discuté un peu, l'ambition de beaucoup de vendeurs de boutiques de jeux de rôle aujourd'hui, c'est d'avoir un rayon jeux de rôle qui s'autofinance, c'est-à-dire on en vend suffisamment pour pouvoir regarnir le rayon. C'est autre chose d'une grande époque. Ouais, c'est un peu triste. On nous signale, Magister Fantôme nous signale Phénomène J, une boutique dont moi aussi je me souviens bien, hein, qui était Boulevard Saint-Michel, avec là aussi pas mal de jeux, etc. Enfin bon, bref, c'est de la nostalgie. Niveau coup de cœur, difficile. Je pense que je vais rester sur Red Space, dont j'ai parlé tout à l'heure. Allez voir, le Kickstarter devrait sortir le 20, donc c'est-à-dire mercredi, hein, si je ne me trompe pas. Deuxième coup de cœur, les Utopiales, allons-y bientôt. Et voilà. Et je pense qu'on va vous rendre l'antenne. On remercie beaucoup nos auditeurs encore une fois en direct, qui d'ailleurs ne manquent pas de nous remercier. C'est très très gentil de votre part. Hein. C'est nous qui vous remercions d'abord. Je fais un peu le tour des dernières questions. Hop. On nous dit, alors ça je comprends pas trop la question, peut-être que ça va vous parler, mais est-ce qu'il existe un OSR poule renard vipère? Il doit me manquer une, il doit me manquer une référence là. Je suis désolé.
Un OSR Bunnies and Burrows, Sandra.
Il y a déjà Bunnies and Burrows, excellent jeu de 74 ou 76 où nous jouons des superbes lapins dans un petit terrier et ça c'est marrant.
Et je signale.
On doit quand même collecter des herbes et on adore l'herbe.
Et je signale à Willem qui s'est fait rétro-taunter par Xavier qui nous dit que, alors pas le Xavier qui est avec nous, mais un autre, qui nous dit que t'as pas vu la température à Bruxelles.
J'ai pas regardé parce que j'avais pas prévu d'aller à Bruxelles. Mais à Bruxelles, il y a la bière aussi.
À Bruxelles, ça compte pas. Le soleil est dans les cœurs, bien sûr.
Et dans la bière. Ok.
Et dans le chocolat.
Eh ben, écoutez, merci à tous. Et on se retrouvera après les Utopiales. Alors, je ne sais pas si le lundi d'après les Utopiales, on fera un podcast. Je pense qu'on fera probablement une pause à ce moment-là pour se reposer un peu. Mais on vous tient au courant.
Puis on se sera vu beaucoup.
Allez, salut.
Au revoir.
Salut.